Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyla Tsinis.
Kayla Itsinis. I'm Kayla Itsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Ça y est, on est en train d'enregistrer et aujourd'hui on est avec Pierre Colsenet. On va parler BMX. On va parler mental, on va parler aussi double projet parce que Pierre est un gros, gros créateur de contenu, photographe, vidéaste et Dieu sait que c'est un sujet qui me passionne en ce moment, donc j'ai aussi envie de comprendre son organisation et sa double vie un petit peu d'athlète, même je suis sur une triple et une quadruple vie qu'il a. Salut Pierre, comment vas-tu?
Bah écoute, ça va Bart, ça va très bien et toi?
Bah écoute, ouais ça va, hein, et on est le jour du réveillon. Là j'ai fait mes petites courses pour ce soir, j'ai les petits cadeaux pour mes amis que je vais voir, mes enfants qui sont gardés et tout est bien huilé, donc là avec l'interview qu'on a maintenant, c'est quasiment une journée parfaite pour moi, tu vois.
Ouais, c'est bien pour clôturer l'année aussi.
exactement. Ça nous fera un bon souvenir à tous les deux. Ouais. Bah comme je le disais en intro, on a beaucoup de choses à se dire. Et bon, comme on est le 31, je vais pas non plus te garder éternellement, même si je sais que je pourrais être bien bravard. mais comme je te le disais, il y a une question traditionnelle sur le podcast que j'ai posée maintenant plus de 180 fois à des athlètes de haut niveau. Cette question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Bah, mon premier souvenir de sport, c'est techniquement la première fois que je suis monté sur un vélo en fait, et bah c'est comme ça que j'ai commencé le BMX au final. C'est quand je venais d'emménager du coup sur la petite ville d'Effre, je venais de découvrir le petit patelin avec mes parents, et du coup bah le BMX à l'époque c'était quelque chose qui était très récent, très nouveau, qui commence à se développer, ça vient des États-Unis et voilà, ça commençait à se démocratiser petit à petit. Et en se baladant dans le village, on avait croisé une piste avec des bosses, et moi j'avais 4 ans à l'époque. Et du coup, forcément, comme je suis un peu casse-cou, je me dis, vas-y, je veux faire ça, je vais aller dessus, quoi. Et à ce moment-là, il y avait, un cours. Il y avait un cours qui était en train de se faire. Et du coup, ma mère m'a dit, non, n'y va pas, c'est pas pour toi, tu es trop petit. Et là, t'as le moniteur qui arrive et tout, qui regarde ma mère, qui dit, mais non, à partir du moment où il sait faire du vélo sur les petits trous, il peut. Et là, ma mère se décompose, elle me dit, non, mais il est trop petit. Elle cherchait toutes les excuses et parce qu'elle avait peur, c'est normal. Et puis, c'est comme ça que, bah, j'ai commencé à faire mes premiers tours de roue sur un truc, qui est une piste de race avec des boss qui faisaient trois fois ma taille. Et du coup, ouais, bah, le souvenir que j'en garde, c'est, moi qui persévérais à essayer de monter des boss, plus grande que moi, qui redescendait, qui remontait, qui redescendait, et j'arrivais pas, je voulais m'obstiner à monter en haut, et puis je me suis inscrit au club, et voilà, c'est comme ça que ça commençait.
Bah, c'est le début d'une belle histoire d'amour, si je comprends bien.
Ouais, c'est ça.
Tu disais que t'étais déjà très casse-cou à l'âge de 4 ans, et aussi que ta mère était peut-être un peu protectrice.
Ouais.
Il y avait d'autres compartiments de ta vie où t'étais un peu casse-cou, tu prenais pas mal de risques et... Et peut-être maman qui essayait un peu de freiner ou qui s'inquiétait.
Bah, avant que je touche à un vélo, déjà quand j'habitais à l'époque, je suis né à Saint-Germain-en-Laye. Alors je sais plus, c'était, je me souviens plus très bien, ça remonte à il y a longtemps, mais j'ai déjà un souvenir de, je dévalais des pentes qui étaient comme ça, avec une espèce de, tu sais, les petites voitures à pédales là, et que en fait, moi je montais en haut et je descendais ça, mais comme un ouf. Et voilà, c'est toujours comme ça que ça commence, mais ouais, j'avais besoin de sensations. Dès que j'étais très jeune, j'avais besoin de sensations, de je sais pas, c'est instinctif quoi.
T'avais pas peur de te faire mal? Tu sais, souvent les enfants ils peuvent être hyper casse-cou et,
ouais.
Et arrivent les premiers gros bobos, on va dire. Et là, généralement, tu peux avoir un switch avec des gens qui s'arrêtent complètement.
Bah non, moi très jeune, j'avais peur de rien, même jusqu'à mon adolescence, j'avais vraiment. J'ai pas froid aux yeux, quoi. Et en fait, plus tu grandis, plus tu mesures le risque, mais pas. Enfin, c'est un autre sujet, mais ouais, c'est très. Quand t'es jeune, c'est là où tu dois le plus prendre de risques entre guillemets. Enfin, de te confronter à tes peurs, etc. Et en fait, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends compte plus tard. Et c'est ça qui fait que bah tu peux performer jeune,
ouais.
et prendre confiance en fait. Parce que plus tu grandis, plus tu commences un sport tard ou genre de sport, bah au plus tu dis bah je connais pas. Moi, j'ai grandi avec ce risque et j'ai grandi avec cette appréhension, ce goût, ces sensations. Enfin, genre t'en demandes encore en fait parce que tu dis ouais c'est, je sais pas, c'est cool, c'est cool tout ce qui est attraction, tout ce qui est. Enfin, je sais pas, tous les sports à sensation en fait. Moi, ça me parlait dès que j'étais petit, quoi.
Ouais. Ok, ouais, je vois bien. Mais c'est marrant parce que tu vois, j'ai eu la chance, tu vois, d'interviewer pas mal d'athlètes qui faisaient des sports extrêmes. Et un truc qui revient très souvent, c'est quand même que dans l'enfance, ouais, ils cultivent ce goût du risque, ils cultivent le plus longtemps possible, ils repoussent les limites. Personne ne les freine entre guillemets, tu vois. Et en fait, ouais, t'as totalement raison, quoi. Plus tu le développes dans l'enfance, plus tu développes un peu cette insouciance. Plus derrière, t'arrives à grandir avec et à le sentir, quoi. Parce que et à l'inverse, t'as des gens qui l'ont pas du tout parce que étant enfant, ouais. ils ont pas chatouillé, on va dire, la vitesse, la prise de risque, l'altitude.
Bah, je dirais que quand plus t'es jeune, plus tu vas fonctionner à l'émotionnel et plus tu grandis, plus tu fonctionnes au rationnel et c'est ce qui fait que ça va te bloquer entre guillemets parce que tu réfléchis peut-être à deux fois à une décision et... Bref, ouais, je pense jusqu'à mon adolescence, jusqu'à ma première vraie blessure, on va dire. Franchement, j'avais pas froid aux yeux, quoi. J'y allais, je me jetais littéralement à la mort, quoi, sur des trucs. Je me dis, vas-y, je fonce. Non, mais vraiment, littéralement. Et j'aimais ça. J'aime toujours ça, mais c'est vrai que ça pue la même saveur. Tu vois, ça pue la même saveur aujourd'hui parce que bah t'as des optiques d'évolution professionnelle où tu dis, bah, tu peux pas me permettre de prendre des risques qui sont inutiles. Ouais. T'as rien à prouver à personne. Enfin, entre guillemets, depuis que j'ai eu l'accompagnement avec Pierre David, ça, je suis différent. Ben, sur ma vision des choses, je suis mieux, je me sens mieux, je me sens moins, on va dire, pris émotionnellement, en fait, tu vois. Je pense que c'est vraiment cette relation à l'émotion qui est importante à comprendre. Parce que vraiment, quand t'es petit, tu vas avec le cœur, tu vas, voilà, les yeux fermés, tu dis je veux le faire, mais parce que il y a un truc qui te prend, tu vois. Et c'est ça qui va te pousser à faire des choses que t'as jamais faites. Et quand tu grandis, même enfin après l'adolescence, on va dire, t'as plus le rapport au rationnel et au milieu professionnel, parce que tu dis bah ce que je fais, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et forcément, bah il y a, on va dire, des enjeux. Et au plus il y a d'enjeux, au plus tu vas mesurer tes risques, tu vois. Alors que quand t'as rien à perdre, tu donnes tout. Et c'est ce qui fait quand t'es petit, en fait, bah t'as rien à perdre dans ta vie, tu vois. Tu bosses pas, t'as pas de contrat, t'es là pour t'éclater. Donc tu fonces, tu te poses pas de questions. Et voilà, aujourd'hui ma philosophie c'est que bah j'essaie de réapprendre à avoir cette philosophie de voilà, me concentrer sur ce que j'aime faire, de ce que je ressens plutôt que de me poser 300 questions pour faire quelque chose, tu vois. Enfin c'est un autre rapport aujourd'hui. depuis que j'ai eu la préparation avec Pierre.
Ok, ouais. Bah, tu m'en parleras un petit peu, un petit peu juste après, mais vas-y, c'est passionnant. J'adore ces sujets un peu de risque et d'appréhension de la blessure ou même parfois de la mort, hein, parce qu'il y a quand même, quand on regarde tes vidéos et tes tricks, des fois, tu risques gros, puis tu peux aussi toujours mal tomber, quoi. Mm-hmm. Et, est-ce que toi, tu dirais du coup que le switch un peu de cette partie émotionnelle à peut-être plus rationnelle, est-ce que chez toi, c'était lié du coup peut-être à une première blessure, à un premier pépin, ou est-ce que c'est plus lié, tu vois, à la découverte de la vie d'adulte et des problèmes d'adulte, tu vois, genre comment est-ce que je vais gagner ma vie, comment est-ce que je vais trouver, voilà, comment est-ce que je vais trouver de l'argent, pourquoi je fais ce sport et pourquoi est-ce que je prends autant de risques. Est-ce que c'est un mélange des deux, tu vois, ou est-ce que pour toi il y a eu peut-être un événement ou un déclic qui a été un peu plus important dans ce passage de l'un à l'autre?
Bah, pour moi, il y a un peu des deux. Comment dire? Jusqu'à, je pense, 2018. En fait, jusqu'à avant que je commence à travailler. Franchement, tout allait bien. Et à partir de ma première expérience professionnelle, j'ai vite compris que j'étais dans un domaine qui me plaisait. Mais t'avais une certaine charge mentale, du coup, de dire, je suis plus focus à 100% dans le sport. Et en fait, plus tu vas vers ça, moins t'es focus, parce que tu dois te concentrer sur tout un écosystème beaucoup plus complexe que simplement faire ton sport. C'est-à-dire que t'as l'occasion de te concentrer sur ton sport jusqu'à ce que tu sortes du lycée ou quand t'es dans les études. Mais quand tu entres dans la vie active, c'est la désillusion, en fait. Et je pense que ça aussi qui, d'un côté te fait grandir et de l'autre, te freine aussi parce que tu peux plus être autant disposé mentalement à ton sport. Que t'as des responsabilités, t'essaies de construire ton avenir professionnel différemment et ton avenir sportif. En fait, c'est concilier cette double responsabilité de sportif et de salarié quand tu n'as pas le choix, tu vois, de travailler, que t'as pas de contrat professionnel, que t'es pas sponsor. Enfin voilà, on n'est pas tous footballeurs, quoi, tu vois. On est dans des sports qui sont relativement précaires, on met nos vies en jeu. En fait, c'est toute cette relation à pourquoi je fais ça, pourquoi en fait je prends autant de risques, pourquoi je m'entraîne autant alors que c'est un travail s'entraîner, deux, gérer son image, trois, performer ou ne pas performer, établir des stratégies de communication. Enfin t'es entrepreneur de ta propre image. C'est pour moi le sport de haut niveau, c'est être entrepreneur avant tout pour soi et mettre en valeur ses compétences, les valoriser. Tu réalises tout ça en fait à partir du moment où tu entres dans le milieu du travail parce que tu dis en fait ce que je fais ça a une certaine valeur mais elle est pas reconnue. Elle est reconnue que quand on performe. Alors que nous par exemple dans le VTT freestyle ou BMX on est dans des sports qui sont artistiques où c'est relativement subjectif parce qu'on n'est pas là pour faire premier, deuxième, troisième, c'est pas une course. Et du coup en fait c'est savoir composer ce qui est le plus original et ce qui nous ressemble le plus. Et t'arrives à un moment donné où tu dis j'essaie d'être original, de performer, de faire des choses différemment, d'aller un peu à contre-courant, de briser les standards. Et tu dis pourquoi je fais ça, pourquoi je vais aller faire 800 km sur une compétition pour même si je fais premier, ça rembourse ni mes frais d'essence ni t'en viens à un rapport professionnel parce que tu dis ça coûte de l'argent et tu demandes pourquoi ça ne t'en rapporte pas alors que tu mets ta vie en jeu littéralement. Parce qu'on n'est pas, on est passionné, mais tu vois, t'as cette différence entre quand t'es petit, où tu fais les choses inconsciemment, t'es prêt à te jeter à la mort, tu sais pas pourquoi, mais voilà, tu t'y vas vraiment purement par passion, et plus tu grandis, plus tu dis, tu culpabilises presque de faire ton sport parce que ça ne te rapporte rien financièrement. Alors que c'est quelque chose qui est très valorisant et qui, auprès des marques, quand, t'as des marques qui te proposent des contrats, on va faire de la publicité, on fait 3 posts Instagram, etc. Enfin, il y a zéro stratégie. Moi aujourd'hui, j'adopte une démarche qui se veut professionnelle dans la gestion de mon image et aussi dans mon implication auprès de mes partenaires. Mmh. J'essaie vraiment de montrer que c'est un métier. Le sport de haut niveau, pour moi, c'est un métier qui va au-delà de la performance. Et aujourd'hui, quand on parle, on va dire du sport de haut niveau, c'est cette notion-là de savoir se promouvoir, de se gérer. Et aujourd'hui, quand je compare d'autres sports, par exemple, des sports qui sont un peu plus, on va dire, conventionnels, j'ai parlé aussi avec 2-3 agences. Les agences me demandaient t'as pas besoin de nous, alors que moi justement je suis entre guillemets dans le besoin de me dire j'ai toutes ces compétences à valoriser, à faire profiter à des marques. Et à côté de ça, t'as des athlètes qui n'ont pas cette notion d'entrepreneuriat, de gérer son image, enfin tout ce qui est à côté de la performance. Tu
ouais,
vois, c'est complètement étranger. Et bah, en fait, nous dans les sports extrêmes, on a cette culture. Enfin, moi, ce qui m'a élevé dans cette vision, c'est le marketing Red Bull, typiquement.
Bien sûr.
Depuis que je suis tout petit, enfin, du moins depuis que j'ai connu un peu.
Devenu des grands entrepreneurs.
Mais clairement, c'est pas pour moi. C'est plus que du sport, c'est une philosophie. Enfin, il y a tellement à débattre là-dessus. C'est que, waouh. Enfin, ce que le sport m'a amené, c'est énorme. En construction, en opportunité professionnelle, en valeur, ça m'a forgé, mais vraiment très profondément. Et aujourd'hui, je me dis, mais merci le sport, quoi. Merci le sport, parce que c'est pas à l'école qu'on va m'apprendre tout ça. Clairement, non, mais c'est vrai. On t'apprend des choses dans la forme, mais pas dans le fond. Dans le fond, là, c'est vraiment moi qui me suis construit. Et quand je fais un rapport professionnel en me disant, voilà, toutes mes opportunités professionnelles, mes relations, mes amis, aujourd'hui, mon métier de photographe, tout ça, ça vient du sport. Et parce que je me suis cultivé grâce au sport.
Ouais.
Et concrètement, la valeur ajoutée, elle est immense. Et aujourd'hui, qu'elle soit pas reconnue comme valeur professionnelle, c'est ingrat.
Ouais.
Voilà. Et du coup, moi, en fait, ma philosophie, bah, c'est de, à travers mon parcours, bah, de valoriser ce que je fais pour montrer que, bah, y a pas que moi, tu vois, qui valorise mes compétences professionnelles au-delà du sport, mais c'est prendre le sport dans son ensemble et montrer que voilà, y a autre chose derrière.
Ah, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
C'est, je m'étale peut-être un peu, mais. Voilà, je te laisse réagir.
Non, c'est hyper intéressant, tu vois, et c'est vrai que, tu vois, on peut avoir des passions qui vont te prendre une heure, deux heures par jour et quelques week-ends dans l'année, et tu te poses jamais la question de, tiens, est-ce que ça vaut vraiment la peine parce que c'est une passion, que t'as une autre vie à côté. Mmh. C'est vrai que quand t'es à cette frontière où, en fait, non, il faut que tu t'entraînes plusieurs heures par jour, que le circuit fait que il y a des gros déplacements, qu'il faut vraiment être ultra impliqué, que ça commence à coûter pas mal d'argent.
Mmh.
Bah à ce moment-là, ouais, tu gamberges beaucoup plus, quoi. Et c'est hyper compliqué de gérer les deux, tu vois. Et peut-être la question que je voulais te poser, c'est, bah, je pense que plus jeune, t'avais peut-être pas conscience de tout ça. Est-ce que c'est pas notamment dû juste à cette culture américaine, cette culture Red Bull, où en fait les athlètes que tu vas regarder
sur les
vidéos il y a 20 ans, tu vois, quand je regarde les premières vidéos GoPro, les mecs sont ultra inspirants, t'as l'impression qu'ils sont déjà sponsorisés, que les mecs en vivent déjà, tu vois, et t'as presque l'impression que c'est facile pour certains aussi, parce qu'on voit, tu vois, les grosses têtes d'affiche, tu vois, là, je vais penser peut-être aux Soul Flyers ou à Kylian Bron, tu vois, qui sont gros athlètes en termes de communauté et de vidéos. Est-ce que, tu vois, pour un gamin, c'est pas un peu aussi grisant d'avoir ces exemples-là où t'as l'impression que c'est facile, ça te fait rêver, et en fait, derrière, tu te rends pas compte que il y a des milliers de mordus un peu comme toi, et finalement, il y en a que 10, tu vois, qui vont très bien vivre de leur activité, et que tout le reste, que je le dise, je vais pas dire c'est la guerre, mais il faut vraiment se serrer les coudes, faut s'accrocher. Faut mettre des plans en place et avoir des vrais projets comme toi tu le fais, quoi.
Non, moi, je trouve au contraire que c'est grâce à ce genre de personnes que on est tiré vers le haut, parce qu'ils pour moi ils montrent l'exemple, ils permettent de donner une idée, de faire rêver, et pour moi je pense qui m'a construit actuellement, c'est de croire en mes ambitions, de croire en moi, enfin, vraiment profondément à ce que j'aime faire. Et je pourrais te parler un petit peu ce qui a changé le cours de ma vie, hein, entre guillemets. C'est juste une idée à la con, mais qui me prenait vraiment au trip. C'est que à l'époque, bon, je te fais mon topo, tu vois, je commence par la race, j'ai 4 ans, je commence à faire les championnats, etc., championnats régionaux, champion régional.
Juste ça commence comme ça. Race, pour expliquer aux auditeurs, c'est du coup des courses de BMX sur des pistes qui doivent faire 5-6 mètres de large, où vous démarrez, vous êtes
c'est 8, ça. On est 8 max. Et on est sur une butte de départ, il y a plein de boss. 30
secondes hyper intensive,
parfois. 30 secondes à une minute en fonction des pistes. Et, et voilà, c'est une discipline qui a été rendue olympique depuis 2018, je crois. 2008, pardon, putain, je dis bêtises. Ça me portait des États-Unis. Enfin voilà, ça a dérivé en plusieurs disciplines à côté. À l'époque, les gars qui faisaient du BMX race, en fait, on fait du BMX race parce que le motocross coûtait trop cher. En gros, ça part de là.
Okay.
Et, Et du coup, ils ont fait des vélos, ils ont commencé à faire comme le motocross, mais avec des vélos, et puis c'est né comme ça. Et quand c'est arrivé en Europe, ça s'est un peu plus démocratisé. Et à l'époque, les gars, ils faisaient à la fois de la race, ils faisaient maintenant, quand il y avait des rampes et tout, ils faisaient de la rampe, ils faisaient du flat, ils étaient très très polyvalents, ils faisaient tout. Et en fait, chacune de ces disciplines aujourd'hui, c'est de plus en plus mise à part et devenu vraiment une spécialité à part entière.
Ouais, bien sûr.
Donc aujourd'hui, on a vraiment de plus en plus d'experts et de spécialistes dans chaque discipline que des gens qui sont polyvalents.
Ouais.
Et du coup, se décline de du BMX race, maintenant le BMX Freestyle Park. Du coup, ça c'est sur les skateparks, le BMX dirt, du coup sur des bosses, le flat, du coup qui se fait au sol, et le street, du coup qui se fait dans la rue, voilà, très grossièrement. Et j'ai commencé par le BMX race, qui selon moi est la meilleure des écoles, du coup parce que ça t'apprend un bike control, ça t'apprend voilà la gestion, à dire du stress, la confrontation aux autres, enfin ça t'apprend énormément de choses, surtout pour bien piloter ton vélo, bien le manier.
Ouais.
Et du coup, à partir de ça, tu peux aller sur d'autres disciplines et que tu as déjà ce bagage sportif qui te permet de rebondir sur énormément de choses. Moi, quand je suis passé du BMX race au BMX freestyle, je faisais déjà tous les transferts. J'avais une bonne gestion, on va dire, de l'inertie que je pouvais avoir en pompant dans les courbes, etc. J'économisais de l'énergie parce que j'avais cette expérience-là. J'avais l'expérience du haut niveau en BMX race sur les Coupes de France, Coupes d'Europe, Coupes du Monde. J'avais déjà 17 années de race et ma transition s'est faite instantanément, sans problème. Et ce qui manquait, c'était le bagage technique pour avoir des figures un peu originales. Mais j'avais mon style de race, du coup, qui fait que j'avais plus d'amplitude, plus de vitesse, peut-être un peu plus de hauteur, moins de technicité. Et du coup, voilà, je switch sur ça pendant 5 ans, je crois.
Peut-être pour donner un petit exemple pour des gens qui se rendent pas compte, c'est un peu comme si tu passais au snowboard... du border cross d'un seul coup presque au big air ou al fight quoi. Donc tu changes, t'as le même engin mais tu fais quelque chose.
Tu fais les choses différentes. Ouais, concrètement et du coup c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai eu 5 années on va dire de pratique en BMX freestyle où j'ai fait certaines choses. Officiellement je me suis mis au freestyle depuis 2017 et le projet dont je voulais te parler du coup c'était avant que je switch sur le BMX freestyle, c'était vraiment complètement à part. À l'époque quand j'avais ce projet là je faisais encore de la race, tu vois, le freestyle je faisais ça pour le kiff, je faisais un peu dirt et tout mais j'avais zéro ambition là-dedans, tu vois, je voulais juste m'amuser, faire autre chose. Et après du coup là depuis 2-3 ans je fais du VTT freestyle et du coup pareil là j'ai fait ma première saison cette année, on en reviendra après, mais j'ai eu aucun mal à passer de l'un à l'autre. Tu vois, parce que t'as quand même un bagage technique qui reste le même, et aujourd'hui, tu vois, t'as d'autres sportives ou sportifs qui en général sont la plupart passés par le BMX race. Tu vois, des Thomas Lemoine, Anne-Caroline Chausson fait du VTT. Il y a qui d'autre? Il y a Mathilde Bernard qui fait du VTT DH, etc., etc. Il y a plein de sportifs qui sont passés par la race et tu vois qu'ils sont techniquement bons et peu importe le vélo auquel ils touchent. Voilà. Donc, pour revenir à tout ce qui a bouleversé, entre guillemets, ma vie, et en relation avec ce que tu disais au début, les émotions, on a peur de rien, etc. Et notamment aussi, la culture Red Bull GoPro, qui sont très inspirantes, où on montre des images qui sont sensationnelles, exceptionnelles, c'est très nouveau à l'époque, et moi, je me souviendrai toujours de la GoPro Hero 2 quand ils avaient sorti le teaser, tu sais, ça te fait monter un peu de sensations, d'adrénaline, tu dis, waouh, c'est stylé, c'est incroyable. Voilà. Et c'est quelque chose qui te marque et qui reste et qui t'inspire parce que tu dis j'ai vu ça mais au fond de moi je sais que je sais pas, t'as un truc qui te pousse à faire un peu la même chose, tu vois, c'est un modèle, c'est une inspiration. Et ce qui m'a inspiré moi dans le BMX en général, c'est ça part de Dan Searles, du coup qui est un athlète en BMX du coup qui malheureusement est décédé, mais qui avait sorti la vidéo à l'époque biggest world dirt jumps. En gros il a fait des sauts sur des postes de dirt qui sont immenses. Et ça racontait un peu le processus, ils avaient découpé ça je crois en 2 ou 3 parties et de comment ils ont construit les boss, ils expliquaient un petit peu la philosophie, etc. Et la dernière partie c'était le moment où ils sautaient les boss, tu vois, c'est à dire que ils montraient step by step les premiers pas, ils voyaient que le mec comment il commençait à dropper, il s'éclatait sur le drop, il se vautre, et puis après tu vois la suite jusqu'à ce qu'il saute la dernière boss. Mais là, tu mesures le risque, en fait, de dire, mais je peux me crever à n'importe quel moment. Je peux me crever à n'importe quel moment. Vraiment, tu ressens le truc. Tu vois le mec au moment, juste avant qu'il saute les boss, il saute, il se met court, Je crois. Alors, en pied, je sais pas combien ça fait. Attends, Dan Searle.
C'est la vidéo qui est sur ton site, non? Où tu dis que justement, c'est une des.
Ah, dans la section à propos sur mon site photo.
Ouais.
Je crois que c'est celle-là, ouais. Je crois que ça doit faire 18-20 mètres, un truc comme ça, mais.
Ah, ouf.
C'est la vidéo qui, selon moi, m'a le plus inspiré, qui était très symbolique, parce que ça montre la capacité de résilience, d'aller plus loin, d'avoir le goût de l'effort, de rien lâcher.
J'ai eu mal pour lui, moi, franchement.
Et le mec, tu vois qu'il s'éclate, mais il continue. Et c'est ça, pour moi, parce que c'est très symbolique par rapport à ce qu'on rencontre dans les sports, c'est cette capacité de résilience. Et pour moi, c'est la chose la plus importante, parce que ce soit professionnellement parlant ou sportivement parlant, c'est ce que va t'apporter le sport. Et c'est pas ce que va t'apporter l'école. Et c'est pour ça que je te dis que c'est quelque chose qui est ancré, parce que très tôt, tu prends conscience de ça. Et bref, du coup, moi, dans cette philosophie-là, ça m'a tellement marqué que voilà, j'ai vu ce mec faire, je me dois d'aller plus loin, de repousser mes limites, tu peux pas abandonner. Tu vois, t'as envie de faire des choses qui sont grandes, c'est vraiment, je t'ai dit, très symbolique. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé, quand je faisais du freestyle, à faire des transferts, alors débiles peut-être, mais je voulais faire les plus gros transferts, ce qui n'a jamais été fait, tu vois, sur les compétitions. Alors peut-être, je trouvais toujours le truc, tu vois, j'arrivais sur les compètes en freestyle au début, avant que je me lance vraiment dans le freestyle, j'étais le mec complètement imprévisible. Tu vois, j'arrivais sur les comptes, je me dis, je vais faire le transfert le plus débile. Genre, vraiment, littéralement. Et je me souviens d'un transfert qui m'a marqué, mais je vais expliquer avant pourquoi j'en suis arrivé là. C'est que, Dan Searle m'a inspiré sur ça. Et je me baladais, du coup, à Niort, la ville où j'habite, à côté. Il y avait la place de la Brèche. La place de la Brèche, c'est la place centrale. Et, à l'époque, elle venait d'être faite et il y avait deux grosses tours au milieu. Tu vois, vraiment deux grosses tours. Et quand je me baladais avec mes potes, je me dis, mais vas-y, ça serait ouf quand même de sauter d'une à l'autre, tu vois. Tu dis, mais sur un compromis, tu dis, bon, allez, ça le fait. Et j'ai commencé à me dire, bon, vas-y, ça me trotte de plus en plus cette idée, c'est débile, mais je me dis, vas-y, j'ai envie de voir qu'est-ce que c'est, en fait. Et je mesure les pas au début d'une tour à l'autre, et je me dis, ouais, ça fait 10 mètres. Et moi, je compare ce que je fais en race, tu dis, en vrai... vas-y, ça se fait, quoi. Ça se fait. Et je sais pas, il y a eu cette idée fixe, entre guillemets, de sauter d'une tour à l'autre qui est venue. Et je crois qu'à l'époque, j'étais au lycée. Et j'ai commencé à y croire de plus en plus. Mais genre vraiment en me disant, mais ça se fait. Ça se fait. C'est pas une question de c'est gros, c'est non, ça se fait. Techniquement, ça se fait. Donc j'ai commencé à faire des transferts sur les compétitions, à l'entraînement. Je m'amusais à essayer de sauter le plus loin. Enfin, voilà, avec cet objectif qui était peut-être pas réalisable, mais de me dire, je m'en rapproche le plus possible. Tu vois, chaque millimètre, je me dis, ouais, j'ai réussi à me rapprocher de cet objectif, même s'il était peut-être pas réalisable. Et du coup, à partir de ce moment-là, je voulais proposer un peu, aux gens qui me soutenaient, j'ai soumis l'idée, j'ai créé une page Facebook pour vous expliquer l'idée, savoir s'il y avait des gens qui adhéraient, enfin, juste sonder et matérialiser cette idée, tu vois, parce que c'était dans ma tête, je me suis dit, vas-y, why not? Et j'ai commencé à vouloir matérialiser, je me suis dit, ça coûte rien. À cet instant, ma vie a vraiment pris un autre tournant. Parce que, les gens ont vu que je croyais en ça, dur comme fer, même s'ils pensaient que c'était impossible, dangereux, insensé, etc. Mais au fond de moi, ils arrivaient à lire que le gars, il y croit. Et en fait, peu importe que ce soit techniquement possible ou pas, s'il y a la croyance, alors tout est possible. Même si techniquement, c'est pas faisable, mais ça va ouvrir des portes derrière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais il y a des choses qui sont arrivées, j'imaginais pas que ça allait se passer. Bref, toute cette construction de ma vie, aujourd'hui où j'en suis, ça part de ce projet-là. Parce que du coup, j'ai créé la page Facebook, il y a eu un emballement, etc. J'ai eu les médias qui sont venus me parler, me poser des questions, m'interviewer. Il y a eu la presse, les radios, etc. Et il y a quelqu'un sur la page qui m'a écrit en me disant, il y a Oxford qui organise un concours. J'ai un concours de projet et j'ai pensé à toi. Je me dis, ça pourrait être cool que tu participes. Ça coûte rien. Moi, je me suis dit, bon, ça passera jamais, tu vois. On y va, hein. C'est qui ne tente rien à rien, t'as rien à perdre, mais vraiment dans cette optique, j'en attendais rien. Et il y a eu un emballement sur le projet, et que c'était un concours de projet européen sur 3 pays, France, Espagne, Pologne, je crois. Et plus de 1200 projets, quelque chose comme ça. Et du coup, il y a eu une sélection de pré-qualifs. Et pré-qualifs, en gros, c'était un maximum de likes pour le projet sur la plateforme. Et à ce moment-là, je sais plus, j'ai dû récolter 700 likes, tu vois, sur le mien, et j'ai passé les pré-qualifs. Et là, je me dis, mais attends, c'est débile. C'est débile. Mais j'ai passé les pré-qualifs. Et à un moment donné, moi, j'étais au lycée. C'était la période où j'étais en train de faire mon bac. Du coup, au début de l'année, là, à un moment donné, j'étais avec un pote, on était au lycée, je suis plus au DOMAC, et là, je reçois un appel. Je reçois un appel et je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre pub? Enfin, foutez-moi la paix, tu vois. Je dis, mais non, vous appelle parce que vous êtes qualifié pour la finale de Oxford. Et là, je regarde mon pote, je fais, mais on est combien à être en finale? Il dit, bah, vous êtes 5.
Wow.
Et là, le bad, tu dis, mais attends, je suis parti de là, t'en attendais rien. Genre, tu dis, vas-y, balaye, quoi, tu vois, genre, comme quand tu jettes des cailloux dans l'eau, bon, tu t'en fous. Et là, on m'appelle, là, je réalise, mais je vais passer une semaine à Paris pour réaliser mon projet, pour aller pitcher pendant 45 minutes devant des PDG. Il y avait PDG d'Oxford, d'une banque, de je sais plus quoi, Melty. Là, tu te prends une claque dans la tranche en te disant, mais waouh, ouais, va falloir se bouger les fesses, quoi. Parce que là, tu vas être confronté à peut-être une réalité que t'as provoquée. Et concrètement, voilà, ça m'a boosté dans la création de projets, dans le développement d'initiatives, cet esprit un peu d'entrepreneuriat, parce que c'était un projet qui était événementiel. Et j'ai réussi à 17 ans, je crois, à démontrer que sauter entre deux tours, c'était pas juste un exploit sportif, ça pouvait être accompagné d'un événement qui pouvait promouvoir le sport extrême, promouvoir diverses formes de sport extrême, parce qu'à l'époque, j'étais déjà très sensible au fauteuil roulant freestyle. Tu vois, Aaron Fotheringham qui fait le backflip, etc. J'étais déjà très sensible à ça et je voulais faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire faire un exploit sportif qui permettrait de montrer en quoi le risque peut être maîtrisé. Et en plus de ça, la ville de New York, c'est la capitale européenne des assurances, donc c'était coup double. C'était le projet qui pouvait potentiellement développer, on va dire, les sports extrêmes, les sports urbains, parce qu'à l'époque, le skatepark, bon, il était toujours aussi pourri. Et moi, justement, je me dis, bah, moi, je me bouge pour essayer de faire avancer les choses et montrer que mon sport, bah, c'est quelque chose de différent, qui peut apporter de la valeur et au-delà de des sports conventionnels. Voilà. Bref, j'avais déjà cette optique et sur ce concours-là, je fais deuxième. Et ce qui me manquait, c'était les accords de la mairie pour faire ce projet. Et j'étais deuxième. Et du coup, sur la deuxième position, c'était un contrat de médiatisation avec Melty. Et le premier a gagné 30 000 euros pour réaliser son projet. Bref, je me dis, mais super expérience. J'ai passé une semaine incroyable. À 17 ans, j'ai pitché devant 3 PDG pendant 45 minutes. Tu dis ouais, t'es pendant ta période du bac et t'es en mode waouh, ouais, c'est cool quand même la tournure que ça prend, alors que c'était juste une idée de base. Mais ça s'arrête pas là, parce que bah du coup, à l'issue de ce projet, il y a quelqu'un qui vient me contacter parce qu'il voulait m'accompagner sur le projet, m'aider, etc., qui était de Montpellier. Et lui était dans une fac, du coup la fac de Montpellier, STAPS. Et moi, à l'époque, bah comme je suis dans la période du bac, c'est la période où tu dois t'orienter professionnellement parlant, les études, tout ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était être dans le sport. Voilà, parce que j'ai besoin de bouger, faire du sport, etc. Et moi, je voulais faire, je sais pas, un Krebs, un BPJEPS, un truc à la con, un truc sur Poitiers, pas trop loin de mes parents, tu vois. Et là, il me parle d'une formation qui est sur 2 ans, le Dust STAPS, Dust ACSS, une formation professionnalisante qui est sur 2 ans, où t'as des intervenants professionnels, où tu peux avoir des stages, et on est 24 dans la promo, enfin, complètement différent de ce que tu peux trouver dans un amphi, dans un cursus, ouais, classique. Au bout de 2 ans, t'as ton diplôme, t'as l'expérience, t'as une vision, et moi je me suis dit, putain, mais c'est ce qu'il me faut, parce que je pourrais développer mon projet au sein de cette fac, parce que bah il y a des responsables événementiels, par exemple le directeur commercial de l'UFIS, etc., c'est vraiment des professionnels qui viennent intervenir. Et là tu dis, waouh, c'est-à-dire que à partir de mon projet, je pourrais peut-être développer mon projet, ce serait peut-être ma carte d'entrée pour aller dans cette fac, qui est sur sélection, tu vois, genre 500 candidatures, ils en prennent 24 par promo, et là tu dis, j'ai un ticket d'entrée. Mais c'est là où tu réalises que ton idée te permet d'aller là. Alors que peut-être que sans ça, t'aurais jamais su que ça existait. Ça m'a ouvert des portes, mais incroyable. Et derrière, j'ai été pris d'office. Parce que, j'arrivais avec un projet, la volonté de me servir des cours comme support pour développer mon projet, etc. Enfin, je me suis construit un réseau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est toute cette dynamique qui s'est mise en place. Et j'arrive en deuxième année. Je rencontre un gars qui s'appelle Étienne, qui lui était en fauteuil. Et du coup, à partir de ce moment-là, lui, il était sportif de haut niveau en cyclisme sur route. Donc ça s'est excessivement bien passé entre nous. On avait un très bon feeling. Naturellement, on a été rapprochés tous les deux aussi par le fauteuil roulant freestyle, parce que moi, j'étais dans le BMX, il était en fauteuil, mais il s'intéressait aussi à ça. La dynamique entre nous s'est excessivement bien passée. On était passionnés. On s'est dit, mais il y a pas ça en France? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi ça se développe aux États-Unis? Pourquoi ça se développe en Europe? Et pourquoi en France, il n'y a rien? Pourquoi on a toujours 10 ans de retard sur ça? Et on s'est dit, on va le faire. On va le faire parce que ça portait pas seulement une vision, sportive. Ça permettait d'avoir un écosystème social, de montrer une image différente du fauteuil. Ça permettait d'apporter plus de mobilité. Enfin, on s'est dit, waouh, on peut pas laisser ça de côté. C'était presque une mission parce qu'on s'est dit, il y a que nous. Il y a peut-être des petits acteurs à côté qui peut-être y auraient pensé, mais nous, on a vraiment un projet de dire, vas-y, on va faire ça. Et on arrive à la fin de nos études. Et là, on se dit, mais bon, on fait quoi? Est-ce qu'on arrête? C'est-à-dire qu'on pourrait reprendre en licence 3, licence pro. Soit on tentait le truc et on allait en incubateur. Pareil. J'étais confronté à mes choix. Je vais me dire, bah, je fais quoi? Et je me suis dit, bah, si, je vais prendre l'expérience. Je me dis, bah, ce que je vais apprendre si j'arrive à être en incubateur avec un projet comme ça, ça sera immense. Mmh. Et du coup, bah, on est parti en incubateur. Et si tu repenses à ce qu'il y a avant, bah, voilà, c'est une idée. L'idée, l'ambition, l'envie, la croyance, même si ça se réalise pas, ça t'ouvre des portes de malade. Et j'ai jamais prémédité.
De croire en ses idées, de croire en ses rêves et de, même les idées les plus folles peuvent aboutir à quelque chose. Qu'est-ce que t'en tires, tu vois, si tu devais donner un conseil ou une morale de cette histoire? Ta propre morale.
C'est dur parce que, j'ai toujours essayé de rester fidèle à moi-même, apporter quelque chose d'authentique, avoir une patte, quelque chose qui me ressemble, plutôt que de recopier un modèle qui fonctionne. C'est très dur aujourd'hui de se créer sa propre référence, parce qu'on a toujours, avec les réseaux sociaux, tout ce qu'on a sur Internet, on a toujours tendance à se dévaloriser, à se remettre en question, à douter, parce qu'on se dit, chez le voisin, c'est mieux. On est de plus en plus dans cette dynamique où on a plein de facteurs externes qui nous empêchent d'avoir confiance en nous et qui nous font douter, parce qu'on se dit peut-être que ça a déjà été fait, ou que ça sert à rien. Surtout dans le BMX ou dans le freestyle, c'est vite dévalorisant, parce que tu te dis, bah, le gap, il est là. Mais en fait, ça tue complètement ta créativité, ça tue complètement ton envie de faire mieux, ou tu te décourages avant même d'avoir pensé à quelque chose. Et moi, à l'époque, bon, je me dis, ça n'a jamais été fait, mais je me suis dit, bah, c'est à moi, c'est mon idée, c'est mon truc. Et je me suis accroché à ça. Et à partir du moment où tu as vraiment un truc qui est à toi, tu peux avoir n'importe quoi qui se passe autour. En fait, t'es rattaché à ton identité, mais tu dur comme fer, tu avances. Et c'est ce que j'ai appris avec Pierre David quand j'ai fait mon accompagnement. Mais je t'en parlerai après. Ouais. Et concrètement, voilà, quand je dis que le sport m'a forgé, c'est que le sport m'a permis d'avoir des valeurs, une vision, des croyances, des ambitions, des compétences professionnelles, des compétences sportives, des capacités de résilience. Enfin, un énorme sac à dos de choses qui sont réellement utiles dans la vie. Ouais. Voilà. Et tu réalises ça quand t'es au lycée. Et c'est, je vais pas dire c'est pas donné à tout le monde, mais quand tu réalises ça quand t'es au lycée, tu dis waouh, ben c'est ouf de me dire que ben, je vais pouvoir avancer peut-être un peu plus sereinement en ayant conscience de ça.
Moi, j'ai mis beaucoup plus de temps avant de me rendre compte des apports du sport, quoi. Tu vois, dans ma vie. C'est là maintenant à 30 ans, tu vois, que encore j'en ai 32, mais ouais, je dirais que c'est vers mes 28-30 ans que j'ai commencé à réaliser waouh, le sport, ça m'a appris tout ça en fait. Mmh. C'est peut-être un peu avant, en montant mes premières boîtes vers 25-26 ans, mais
quand t'arrives à un rapport, quand t'arrives à un rapport professionnel, c'est là que tu le réalises. Mais moi, à 17 ans, j'avais déjà une ambition professionnelle à travers mon événement. Tu vois, quand tu restes purement dans le sportif, tu te poses peut-être pas toutes ces questions. Quand t'as papa, maman qui t'aide, quand t'es dans ton coin, quand t'es étudiant.
Un club, t'as une fédération.
Voilà. Quand t'es encadré, tu te poses peut-être pas toutes ces questions et on va peut-être penser à ces questions à ta place. Et je ferai un autre parallèle après. Mais concrètement, moi, très jeune, j'ai voulu être autonome et créer des projets et me tenir à ça. Parce que je me dis, ouais, je vais le faire. Et concrètement, bah, du coup, comme je t'ai dit, on est allé en incubateur et j'ai eu mon premier travail grâce au sport. Grâce à ce projet, parce que pendant la période d'études de marché, quand on était en incubateur, j'ai proposé à mon club, là où je m'entraînais, du coup, en BMX freestyle, c'était la première année où je m'entraînais en freestyle, j'aurais proposé, voilà, sur le principe, est-ce que ça vous dit l'idée de développer le fauteuil roulant en freestyle dans votre club? Tu dis, bah oui, carrément et tout, ben voilà. Ok, 6 mois plus tard, bon, il y a eu des aléas avec mon associé, du coup, le projet était resté en stand-by, et bah, du coup, je suis resté sur le carreau. Alors que le projet était validé, le business plan était validé, enfin, un truc super et tout. Mais il y a eu des faits qui ont fait qu'on a dû s'arrêter. Et là, je reçois un coup de fil. Je reçois un coup de fil de la responsable de club, qui se souvenait de moi, bah, du coup, quand je vais présenter le truc. Elle me dit, bah, écoute, moi, je vais partir, parce que voilà, j'ai trouvé un autre poste ailleurs. Et j'ai repensé à toi en premier parce que tu m'as présenté ton projet, ton profil, etc. et que bah, ça me semblait cohérent par rapport à quelqu'un qui pourrait reprendre le poste. Et m'a passé le flambeau. J'ai provoqué cette situation sans le vouloir. Et comme je t'ai dit, j'ai jamais pensé que voilà, j'avais l'ambition d'être responsable de club. Du coup, j'allais devoir faire des études pour ça, etc. Mais ma philosophie, c'était toujours un entonnoir inversé. C'est-à-dire que je me crée des opportunités, je récolterai plus tard. Tu vois, je me suis jamais fixé l'objectif de je veux être, je veux avoir. Non, c'est je veux devenir. Et puis après, les choses viendront se greffer à moi. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai cru en ce projet, dur comme fer, ça m'a ouvert des voies comme ça. Et après, à l'issue de ça, bah, j'ai fait 3 ans de salariat au sein de ce club. Ça m'a apporté voilà, des connaissances, des compétences, de l'expertise, etc. Malheureusement, ça s'est mal terminé. Et c'est ce qui fait aujourd'hui bah, que je suis indépendant aussi en photo. Mais encore une fois, la photo, j'en suis venu parce que bah, je crée du contenu en vélo pour bah, développer mon image, etc. Et que, à un moment donné, bah, j'ai eu un déclic de me dire il y a peut-être des opportunités professionnelles, et paf. Ouais. Et tout ça grâce au sport, encore une fois. Donc voilà, très brièvement, mon parcours, du moins d'un point de vue sportif et professionnel. Après, il y a d'autres choses à aborder.
Non, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Il y a un truc qui m'a marqué là dans ce que tu viens de dire, c'est j'ai arrêté de vouloir avoir et de vouloir être, et je me suis concentré sur qui je voulais devenir. J'en ai pas mal parlé avec Pierre David.
Mais c'est exactement ça. C'est le point.
Ouais, c'est un peu sa philosophie. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup parlé. Et c'est vrai que ça a été aussi un déclic un peu pour moi, tu vois. Peu importe qui je suis, ce qui compte, c'est qui je veux devenir. Enfin, qui je deviens. Toi, comment t'en es venu justement à t'intéresser à la préparation mentale? Parce que tu vois, moi, quand je t'écoute là depuis le début, je me dis putain, mais il a du courage là. Déjà tout jeune, il est casse-cou, il se fixe pas de limites. Il est dans un sport où il y a quasiment pas d'accompagnement fédéral. En plus, tu quittes le circuit, on va dire un peu olympique, qui pourrait peut-être être un petit peu plus sécuritaire, tu vois, pour avoir les accompagnements, on va dire standards, qui sont proposés par les grands acteurs qui aident le sport français, quoi.
Ouais.
Tu montes des projets, tu t'as pas de barrière, t'as pas de limite, tu vois. Je me dis, mais comment est-ce que t'en es venu, du coup, à la préparation mentale? Est-ce que t'avais besoin, justement, de ce déclic? Et aujourd'hui, qui me donne l'impression à moi, en tout cas, que t'as confiance en toi à 100%, ou est-ce qu'il y avait, je sais pas, autre chose, tu vois, des doutes, qu'est-ce qui fait que t'en es venu là?
Pour moi, je pense que ça part de la race. Alors j'ai traversé des choses pas simples en race. Enfin, tout mon parcours sportif, j'ai toujours rencontré des gens bizarres qui ne défendent pas du tout les valeurs du sport, qui vont même à l'encontre pour leurs propres intérêts. Dans toutes les disciplines que j'ai faites. Ouais. Et du coup, je me suis dit bon, comment je peux me prémunir de ça, parce que bah, je dépendais de facteurs externes. Et je me dis waouh, c'est comme ennuyant de pas sentir au top sur le vélo à cause de choses dont tu n'es pas responsable. Alors, ça part de là. Alors initialement, avant de se poser ces questions, c'est parce qu'en BMX Race, t'avais toujours ce stress de mal faire, ou quand t'es sur la grille, pour moi, 90%, 98% de ta course, elle se fait sur la grille. Quand tu commences à aller sur la grille, en fait, bah déjà, moi, à l'époque, j'avais la sensation d'aller à l'abattoir, en fait. Genre, je sais pas comment décrire cette sensation, mais t'as toujours ce stress de pas te sentir suffisamment lucide, pas suffisamment focus, pas suffisamment... Voilà. Je me sentais anéanti et un peu mou, en fait, tu vois, cette sensation d'être mou, alors que c'est un moment qui est important où tu dois mobiliser toute ta force, toute ta conscience.
Comment t'expliques que tu pouvais avoir ce sentiment un peu de mollitude ou...
La volonté de vouloir trop bien faire. J'étais très, et je suis toujours très exigeant envers moi-même. Alors, je vais pas dire que ça me paralysait, mais il y avait des enjeux, en fait. À partir du moment où tu as conscience d'un enjeu, tout de suite, tu vas... Alors, je sais pas comment mon corps réagit, mais je pense que ça va être comme ça pour tout le monde, peut-être. La sensation d'être mou, c'est comme si c'était mon corps qui essaie de s'économiser jusqu'au moment où. C'est-à-dire comme si elle essaie d'économiser les ressources pour pas se fatiguer inutilement. Mais c'est, pour moi, provoqué par le stress. Ben justement, de pas être suffisamment conscient de est-ce que je suis au top, est-ce que si, est-ce que ça, tu te poses plein de questions, est-ce que t'as bien dormi, t'as bien mangé. Et voilà. Et quand t'arrives sur la grille, t'as ce sentiment de pas être suffisamment bon ou explosif, ou comme si tu t'autorisais pas à être devant. Voilà. Je pense que c'est surtout ça, cette relation, parce qu'en race, j'ai toujours l'habitude, bon, au début, tu vois, bah, d'être derrière, parce que t'as l'impression qu'être premier, c'est mal, t'as l'impression qu'être premier, c'est écraser les autres, ou tu t'autorisais pas à être premier, tu vois. Alors que, dans les manches qualificatives, j'ai aucun problème. Dans les manches, voilà, dans les quarts, dans les demi, enfin, t'avais aucun problème. Et, généralement, là où je commençais à flancher, c'était vraiment à partir des demi ou des finales, où là, tu te dis, est-ce que je m'autorise à être premier ou pas? T'as l'impression d'être un imposteur et que, naturellement, t'as des choses qui vont faire que tu vas pas pouvoir être à cette place parce que tu te sens pas légitime d'être à cette place. Tu vois? Ouais. Peut-être quelque chose d'inconscient. Alors, il y a une part de ça et une part de stress.
Ok.
Et du coup, je me suis dit,
pas forcément au regard des autres, mais à la comparaison aux autres.
Ouais.
Ouais, t'es plus dans ta
personne. Ah, mais c'est ça. En race, quand t'arrives dans les pré-grilles, c'est toujours déjà une espèce d'ambiance, où c'est celui qui va être le plus stoïque. Celui qui montre le moins d'émotion et que tu dis, waouh, et que toi, tu dis, putain, je stresse, mais lui, il a l'air complètement serein. Et en fait, t'as déjà cette sensation pas de supériorité, mais tu sais, d'esprit de compétition, de regard, de l'intox, complètement, genre un peu de bluff. Alors que tu sais qu'au fond de toi, tu t'es entraîné, t'es légitime, etc. Mais par derrière, j'avais aussi une période où je crois que c'était la meilleure saison que j'ai faite dans les pires conditions, littéralement. Le club dans lequel j'étais, voilà, il y a eu des histoires avec. Enfin, je m'entraînais là-bas, j'étais en sport-études et c'était pas vraiment sport-études. Enfin, plein de choses qui étaient un peu bizarres. Et du coup, j'arrive au lycée en sport-études là-bas. Et sur mon année terminale, là où j'ai mon projet, etc. C'est là où cette année-là, j'ai pas accès à la piste parce qu'il y a eu des histoires et que à un moment donné, j'essaie de rester focus.
Bien sûr.
Et que voilà, je voulais plus rencontrer ces problèmes et ces personnes. Et du coup, j'arrivais à un stade où j'avais pas d'infrastructure pour m'entraîner en dehors de rentrer chez moi le week-end. Et c'est là où j'ai commencé à faire du parc parce que j'avais pas mon vélo il était à l'internat, et j'ai commencé à compenser le manque d'entraînement par du BMX park. Ça commençait comme ça, et du coup t'es arrivé sur les compétitions avec de moins bonnes conditions que les autres parce que t'es pas d'entraîneur, pas de piste, pas d'entraînement, du coup ta condition physique, tu restais sur tes acquis. Et sur toute mon année, je suis resté sur mes acquis, mais je me suis fait confiance parce que je me suis dit, j'y crois, je suis capable. Et arrive l'Indoor de Saint-Etienne, c'est là où je fais ma première demi-finale. Alors à l'époque, je sais plus ce que j'étais junior, je crois, junior 1, et j'arrivais du coup dans ma catégorie junior 2, et la catégorie junior 2, c'est celle qui te permettait de basculer sur la catégorie élite. Ouais. Et il fallait faire top 10, je crois, dans ta catégorie pour passer élite. Et moi, mon objectif quand j'étais petit, c'est d'arriver élite, tu vois, c'est des juristes d'OD, c'est tous ces trucs-là, la plaque blanche, c'est tu sacralises ce truc et tu dis waouh, je veux ça, je me sens comme si je le méritais, tu vois. Donc je me suis dit, je dois tout donner. Et c'est où je me suis mis dans ma bulle en me disant t'as peut-être les conditions de merde, mais t'as les capacités. Donc j'ai commencé à essayer de donner le meilleur, même si c'était dur. Et toute ma saison, ça a été ça. J'arrive jusqu'au demi.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jusqu'à une fois où j'avais fait sur la compétition, sur la piste, il y avait la Coupe de France, et ça devait être mon premier podium. Premier podium sur la piste où j'étais pas censé rouler, où on m'empêchait de rouler, il y a eu des histoires, etc. J'arrive. Première journée, je me vautre en demi. Et la deuxième journée, mon premier podium, je suis troisième. Et là, je me dis, waouh. T'as réussi à, c'était pas ouf, entre guillemets, mais les conditions dans lesquelles j'ai réussi à faire cette performance, c'était ouf pour moi. Parce que je me dis, waouh, j'ai réussi à me montrer que j'étais capable de le faire. Alors que j'avais toutes les raisons de me dire, mais j'ai pas d'entraîneur, j'ai pas d'entraînement, j'ai rien, je pouvais me trouver toutes les excuses du monde. Et moi, mon objectif, c'est, je prends chaque millimètre. Je donne tout jusqu'à la fin. Même si j'y arrive pas, je donne tout. Et du coup, sur toutes les compétitions de ma saison, je suis tombé. Toutes les compétitions. Même des courses où, j'ai fini la course à pied avec le vélo. La course à pied. Pourquoi? Parce que chaque point comptait. chaque point comptait. Et si je tombe et que je termine la course à pied, ça sera quand même des points qui seront comptabilisés. Alors que si je termine pas la course, c'est de l'abandon et ces points seront pas comptabilisés.
Okay.
Et la morale de l'histoire, c'est que je passe élite à 2 points. À la fin de ma saison, je passe élite à 2 points.
Et t'as terminé 2 fois à pied.
Voilà.
Et tu gagnes tes 2 petits points, quoi.
C'est ça. Et du coup, voilà. J'ai rien lâché. J'étais focus sur mon objectif. Peu importe ce qui se passe à droite, à gauche, je me dis, je termine ma saison. Je termine la course. Je tombe, je termine la course. Il y a des photos qui doivent circuler quand ça s'est passé, quand j'étais tombé sur cette piste. 2 fois. 2 courses où j'ai terminé à pied avec le vélo d'un côté et la roue de l'autre.
Okay.
Voilà. Et pour moi, c'est ces 2 fois là où j'ai rien lâché, où je suis allé jusqu'au bout, même si je pouvais passer pour un débile en faisant tout le tour de la piste avec le vélo, parce que si je coupais, bah c'était abandon. Donc j'ai terminé à 2 points.
Ouais,
okay. Voilà. Du coup, je passe élite. Mais à partir de ce moment-là, c'est là où j'arrive à la fac, où les choses changent, parce que bah pour m'entraîner, pareil, je devais aller traverser tout Montpellier, prendre le train, aller jusqu'à Frontignan, m'entraîner, reprendre le train, retraverser tout Montpellier en vélo et revenir chez moi. Pour m'entraîner 1 heure ou 2 heures, ça me demandait 4 heures. Voilà. Et après, t'avais la fac, t'avais les projets, t'avais les trucs. C'est là où les choses ont commencé à se décanter en me disant, ouais, j'ai envie de performer, mais il y a un truc qui fait que j'ai l'impression de me limiter, parce que même en raid, je me posais la question de savoir pourquoi je faisais tout ça. Pourquoi je me donnais autant de mal pour essayer de performer, alors que je savais très bien que c'était impossible de gagner sa vie en race. Genre, désillusion totale. Sur les combats, je crois que c'était à Lindor de Caen. Je réalisais que peu importe les efforts que je ferais, même si j'étais premier, c'est quoi qui a gagné? C'est quoi qui a gagné? Tu vois, genre, ouais, c'est bon, t'es premier, admettons, t'es champion du monde, et après? Et après? Il y aura quoi? Qu'est-ce que tu veux de plus? Bah, là, je me suis dit, mais... Bah, je sais pas. En fait, tu te posais littéralement la question, pourquoi tu fais ça? Ouais. Est-ce que c'est pour être premier? Est-ce que c'est pour gagner? Qu'est-ce que ça t'apporte de gagner? Et là, tu commences à réaliser que, en fait, c'est éphémère. Parce que c'est-à-dire que si t'es premier, bah, tu dois te battre pour rester premier. Et je pense que ça doit être encore plus dur mentalement. Mais c'est la question professionnelle commençait à se poser. Parce que, ça engendre des coûts. Ça engendre des risques. Ça engendre du travail, la préparation physique, du temps. Enfin. Tout plein de paramètres. Tu dis, pourquoi je mobilise autant d'énergie? Pardon. Pourquoi je mobilise autant d'énergie et que bah, j'y gagne rien à part la satisfaction de performer. Tu vois, c'est t'as l'impression que ce que tu fais, ça n'a qu'une valeur amateur ou de passionné, et que au fond de moi, tout ce que je voulais faire, c'était pas quelque chose de voilà, c'est pas pour être un passionné. Quand on me disait ouais, ton sport, voilà, c'est tu fais du sport, t'es passionné, c'est bien, mais faut travailler, etc. Et là, tu dis mais non, mais moi, je veux faire ça. Je veux gagner ma vie avec ce que je fais. Mais il n'y a pas de possibilité de gagner sa vie avec ce que je fais. Alors, je fais comment pour continuer de performer? Je commence à me mettre des barrières. Je commence à vriller. Je me dis, waouh, la race, c'est terminé. Je vois pas comment je pourrais continuer d'assumer la race si j'ai pas les finances, si j'ai pas le temps, et que tu peux pas performer et être élite sans être à plein temps. Parce que être élite en race, c'est ingrat. C'est très dur. Ça demande des ressources physiques, mentales de malades. Et aujourd'hui, les mecs, ils passent énormément de temps à la salle. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de choses. Et j'en suis venu à me dire, mais je me vois pas là-dedans. C'était dur, hein, mais.
C'est plus facile, justement, pour se rendre compte de ça. Et c'est, d'ailleurs, c'est pas un peu flippant de, tu vois, de commencer, un accompagnement avec un préparateur mental et en fait t'arrives je sais pas, tu fais quelques séances et en fait tu te dis waouh, je suis pas dans le bon sport ou je suis pas au bon endroit.
Alors c'est j'ai même pas commencé la préparation mentale à ce moment-là. Voilà. J'avais même pas encore commencé la préparation mentale, mais je me posais déjà ces questions.
OK.
Et du coup, je me suis voilà, j'avais l'impression pas que le monde s'effondrait autour de moi, mais tout ce que j'idolâtrais, tout ce que j'imaginais, c'était la désillusion totale, en fait. J'ai l'impression que tout ce que j'ai voulu, c'était quelque chose de fake. Enfin, concrètement, en dehors de la performance, t'as pas d'opportunité professionnelle. À moins d'être pris dans une division nationale et je sais pas, mais bon, quoi qu'il en soit, fallait serrer la ceinture et continuer d'avancer. Mais moi, j'étais un peu dans mon coin. Bref, je passe sur le BMX Freestyle. Et voilà, je commence à toujours avoir cette philosophie d'aller à contre-courant, de faire des choses différentes, d'apporter les choses à ma manière, de mélanger mon style de race avec voilà un bagage technique un peu différent. Parce que je voyais tous les mecs qui faisaient toujours des backflips, enfin, pas des backflips, des tail whips. C'est le vélo du coup qui tourne autour du cadre ou des bar spins. Du coup, c'est juste faire tourner le guidon. Je voyais des mecs qui faisaient que ça. Tu vois, genre ils faisaient du tricot et je me dis mais le gap entre la vidéo que j'ai vue de Dan Searles, qui se jette à la mort, qui a des grosses extensions, du gros style et tout, mais putain, mais c'est où ça? C'est où? Et moi, je me suis dit, bah ouais, mais moi, je vais faire ça, je vais apporter ça. Parce qu'il y en avait des gars, mais on les voyait pas beaucoup. Et moi, je me suis dit, je veux être le mec qui sort du lot, mais pas parce qu'il va faire plus que les autres, mais qu'il va faire différemment. Tu vois? J'étais déjà dans cette optique d'apporter des choses différentes, avec des transferts, avec des tricks bien claqués, avec de l'extension. Enfin, avoir un style qui est différent. Et moi, je travaille sur cette philosophie-là. Et en 2018, je crois, c'est là où je réalise le Nothing Bike Front Flip. Du coup, c'est le vélo qui fait un front flip. Voilà. Et ça, moi, je bouge pas.
Mais ton vélo fait une pirouette. Tu lâches ton vélo pour qu'il fasse un front flip.
Ça, je l'envoie en avant. Et en fait, déjà, rien que ce trick, pour recontextualiser le truc, ça vient du Nitro Circus. Circus, c'est un gros show américain avec des athlètes qui généralement performent avec des nouvelles figures qui n'ont jamais été faites, et c'est sur un big air de 10 mètres ou plus, hein, je sais pas trop, mais c'est sur un truc où ils ont grave le temps de faire les choses. Ouais. Et à l'époque, c'est Ryan Williams du coup qui a fait ça pour la première fois. Et tu dis putain, c'est un truc de dingue, tu vois. Tu pensais déjà arriver à un niveau dans le vélo où tu dis bah tout a été fait, et ah, le mec, non, et là tu fais waouh. Tu dis bah voilà, c'est bon, c'est ouf. Et après il y a Jetway qui l'a fait, et après ça plus rien. Et jusqu'au jour où moi j'arrive sur une session où j'étais en train de performer, d'apprendre de nouveaux tricks. J'étais vraiment dans une période où j'avais la dalle, tu vois, d'apprendre des nouvelles choses, de me dépasser. Je savais même pas faire un backflip à l'époque, quand j'ai commencé le freestyle. J'étais comme ça et en un an j'ai une espèce de progression de fou. Alors je saurais pas t'expliquer pourquoi, parce que j'avais envie de progresser en freestyle. Et là j'arrive à un moment dans ma session où j'ai fait ma session, c'est le soir, et puis en général j'essaie toujours des nouveaux trucs. Et là je me jetais sur la résie, tu vois, c'est des matelas avec une espèce de couche en caoutchouc où j'essaie des nouveaux trucs.
Des essais et tu peux te tomber sans te faire mal, quoi.
Alors ça limite la casse. Mais ouais, grosso modo. Et là je sais pas, j'ai tenté plein de trucs, j'essaie de faire des body varials, des trucs comme ça. Enfin, toujours des trucs très inspirés du FMX, parce que je trouvais ça stylé. Et là, vient un moment où je commence à me dire, je vais essayer bike front flip, tu vois, genre un truc à la con. Je me dis, jette le vélo. Bon, ça payait pas de mine, tu vois, mais c'était juste pour déconner. Et là, t'arrives à un moment donné où je dis, je réessaye et tout. Là, tu vois le vélo qui commence juste à tourner, tu vois, mais ne serait-ce qu'une demi-rotation, tu dis, ça commence à avoir de la gueule. Et je demande à mon pote de me filmer, je vois que ça commence à juste tourner, tu vois, le vélo, il a 10 km, mais tu vois, le vélo qui fait une rotation, tu dis, y a moyen quand même. Et je reviens le deuxième jour, du coup, le lendemain, et je me dis à la fin de ma session, je refais pareil qu'hier. Et là, à partir du moment où j'ai commencé à le faire, je sais pas au bout de combien d'essais, j'ai commencé à faire une rotation et à toucher le guidon, juste le toucher, tu vois, genre, ne serait-ce que l'effleurer. Tu dis, t'as fait une rotation et jusque-là, t'as réussi à toucher le guidon. Là, dans ma tête, c'était mort. Je me dis, je lâche pas le truc. Faut que je le fasse. C'est pas possible de s'arrêter jusqu'ici. Et le lendemain, du coup, 3 jours d'affilée, je refais la même. Mais là, cette journée-là, je me dis, je pars pas de ma journée tant que j'ai pas plaqué le truc. Vraiment, j'étais obtus. Et pareil, je recommence. Et là, je me répète mes étapes. Alors, d'abord la rotation, c'est bon. Ok. Deuxième étape, allez, on lance le vélo, la rotation est maîtrisée. Et là, on va essayer de toucher le guidon. Donc, j'arrive à un moment où à chaque fois que je le faisais, je touchais le guidon. Maintenant, la dernière étape, c'était poser un pied. Mon Dieu. Je sais pas combien d'essais il s'est passé. J'étais désespéré. Genre, je me dis, je m'acharne. Tu vois, je me suis dit, je pars pas tant que j'ai pas fait ça. Et là, je cache le guidon. Premier pied qui se pose. Là, c'est bon, j'ai dévissé. Tout ce qui a suivi, je me suis acharné dessus. Je me dis, c'est bon. Aujourd'hui, c'est maintenant. Et bref, je fais mes essais et là, je le plaque. J'ai une espèce d'explosion émotionnelle où je me dis je me suis défoncé le derrière pour faire ce truc alors que j'avais aucune raison de le faire. J'avais aucune raison de m'acharner autant sur un trick. Mais je sais pas pourquoi, je me suis dit, vas-y, si, si je le fais pas, je suis une merde. Mais enfin bref, j'ai réussi à faire ça en 3 jours sur un truc qui initialement venait du Nitro Circus, qui était fait sur des piquaires, et moi j'ai fait ça sur une bosse de 2 mètres. Il était là l'exploit pour moi, tu vois, parce que je me dis, j'ai réussi à apporter un truc qui semblait impossible à faire sur quelque chose de plus petit, parce que c'était ouais. nouveau. Et moi j'ai réussi à faire ça sur un truc qui faisait 2 mètres, une petite bosse. Et du coup, j'étais le troisième au monde à le faire. Et à partir de ce moment-là, bah, mon objectif, c'était de le mettre en compétition. Et ça demandait du travail. Énormément de travail. Parce que maîtriser cette figure, bah, au début, qui était assez nouvelle, t'as pas de tuto, t'as rien, et bah, tu fais avec tes repères. Et, bah, l'objectif, voilà, c'était de faire ça, et, bah, mine de rien, mon objectif, c'était de le mettre au fizz. En run. Tu vois, pas juste le faire pour le faire. C'était de le mettre pendant un run. Dans un run. Et c'est très dur parce que la maîtrise technique, généralement, quand tu la vois juste, un petit peu trop en avant, un peu trop en arrière, faut qu'il y ait suffisamment d'espace, et la plupart du temps, j'avais toujours une espèce de cicatrice au niveau du thorax, parce que bah, j'avais le pneu qui frottait. Enfin voilà, et réussir à appréhender ça, bah voilà, c'était mon objectif. Mais j'étais que sur ça, le reste, je m'en foutais, je voulais pas être champion du monde, je voulais faire ça, parce que ça n'a jamais été fait. Et bref, j'arrive à la période où voilà, c'est pendant presque le FIS, et je commençais à stresser, de me dire putain, je sais le faire à l'entraînement, mais là le faire en run, c'est autre chose. T'as énormément de personnes qui te regardent au niveau du FIS, tu vois, t'as les deux rives et tout, c'est assez impressionnant.
Ouais, c'est un super événement qu'il faut aller voir absolument. Si vous êtes
c'est
dans,
ça, c'est
dans
ouf.
Le coin, il faut y aller. C'est l'équivalent des X Games en Europe. C'est énorme. C'est la fierté, je pense, des sports un peu extrêmes
qu'on peut avoir
en France.
À Montpellier, c'est l'ambiance, mais ça marquait beaucoup de choses. Hein. Ça fait énormément évoluer le sport. Et du coup, le faire au FIS, c'était symbolique, tu vois, parce que tu dis, bah, c'est regardé par déjà tous les pros. Tous les mecs que tu regardes en vidéo, le public, enfin c'est presque officialiser le truc, de dire voilà, t'es le premier qui va le faire devant je sais pas combien de personnes, à le faire en run, en parc, parce que jusqu'à présent c'était fait en show, tu vois, sur les shows, Nitro Circus. Bref, et à ce moment-là, je me fais ligament croisé poste. Oh. Voilà, c'est un truc de merde, hein. Je faisais un backflip en sous-rotation et j'atterris sur les genoux et en fait, bah mon tibia... Et alors, il s'était pas déchiré, mais vraiment déchirure partielle. Enfin, voilà, ça tenait à pas grand-chose. Et moi, je me dis putain, j'ai bossé tout ça pour ça. Pour me dire, avant d'arriver au FIS, je me fais le croisé-poste, genre 2 semaines avant, je crois. Ou même pas, je savais même pas encore que j'avais le croisé-poste, mais on s'en doutait, et j'avais dû faire l'écho, je sais plus, le lundi avant le FIS. Enfin, genre vraiment la semaine ouais. du FIS. Et j'ai su... Enfin, je me suis dit, mais voilà, je sais pas quoi faire. Et à ce moment-là, un peu avant, c'est là où j'ai contacté Pierre David. Parce que voilà, mon objectif c'était ça. Je me posais plein de questions. J'avais des problèmes avec mon entraîneur. Je perdais confiance en moi parce que il y avait certaines choses qui n'allaient pas avec la personne. Et je me remettais beaucoup en question, alors que le problème ne venait pas de moi, mais de cette personne. Et c'est là où je me suis dit, à un moment donné, stop. Tout ce qui est facteurs environnementaux, j'en ai marre. J'ai envie de me concentrer sur moi, j'ai envie d'être focus, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me sentir performant, de savoir que ce que je fais, voilà, à l'entraînement, je suis capable de le refaire sur la compétition, sans me poser de questions, voilà. J'ai besoin de confiance en moi, tout simplement. J'avais besoin de confiance en moi, de sérénité. Et c'est là où je me dis, t'as connu ça en race, à un moment donné, voilà, tu veux aller de l'avant, tu veux performer, tu veux faire des choses grandes dans le VTT, ou dans, pas dans le VTT, mais dans le BMX. Voilà, à un moment donné, le mental, ça fait partie de la performance. Même titre que la préparation physique, parce que tu muscles ton mental, c'est une gymnastique. Faut arrêter de mentaliser les choses qui sont inutiles. Enfin, t'as besoin d'être focus. Et là, je rencontre Pierre David. Alors, je sais plus par quel moyen, je crois que c'était par Ali Teams. Je crois, comme j'étais listé okay. au niveau, à l'époque, Ali Teams, je sais pas si tu connais.
Ouais, je vois, ouais. C'est une boîte qui met en valeur les athlètes pour qu'ils bossent en entreprise, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et j'avais vu le nom de Pierre David quelque part, tu vois, et je me dis, bon, moi, j'avais déjà vu son nom, etc. Et je sais plus pourquoi j'avais pensé à lui, mais, je sais pas, ça me parlait, tu vois, c'était un sportif de haut niveau, j'avais vu Ali Teams, moi, ça me semblait legit, tu vois, je voulais pas aller voir les préparateurs mentaux du Krebs, etc. Il avait une approche qui était différente. Je l'avais recroisé sur LinkedIn, et là, je lui envoie un message sur LinkedIn pour lui parler. Et tout de suite le feeling est bien passé parce que j'ai senti qu'il comprenait déjà un peu ce qui me torturait l'esprit, et pour moi il avait la réponse à mes questions, tu vois. Et là, à partir de ce moment-là, il commençait à lancer sa boîte, enfin du coup sur la préparation mentale, je devais être genre son deuxième client. Et franchement, au début, bah, tu vois, t'es étudiant, t'as pas trop les moyens, mais quand ils t'annoncent, bah, voilà, le tarif qu'ils peuvent te proposer, bah, ça représente un certain coût. Mmh. Et je me suis dit, ça représente plus un investissement qu'une dépense parce que je sais que j'en ai besoin. Mais j'arrivais vraiment à un moment où j'étais presque en plein craquage. Parce que, voilà, mentalement, je devais être déstabilisé. C'était l'époque où je, bah, pareil, comme je t'ai dit, j'ai commencé à travailler. Mmh. Donc, pendant cette période-là, bah, voilà, la charge mentale était monstrueuse. Enfin, t'as plein de facteurs qui font qu'à un moment donné, t'as besoin de te recentrer sur toi parce que t'étais trop sur tous les facteurs environnementaux. Ouais. Enfin, comment bref, je commence. Ouais, dis-moi, vas-y.
Bah, comment est-ce que vous avez travaillé, du coup, t'as dit, ouais, j'ai l'impression qu'il comprenait un peu les problèmes que tu pouvais avoir, tu vois. Comment est-ce que tu l'as senti? Déjà, je pense qu'il y avait le sujet effectivement de la confiance, mais comment est-ce que lui il l'a cerné? Et après, comment est-ce que vous avez bossé ensemble? Est-ce que vous avez fait direct de la dépolarisation ou vous avez peut-être bossé sur d'autres?
Non, au début, j'ai commencé à lui expliquer un petit peu mes blocages, et pas bah, mon rapport un peu aux autres, ma philosophie, etc. Et que, bah, techniquement, bah, syndrome de l'imposteur. Voilà, ça part de là. Tu te sens pas légitime de ce que tu fais, alors que t'as les capacités. Enfin, c'est, je pense, très commun à tout le monde, que ce soit entrepreneur, sportif. C'est humain, parce que on nous dit toujours que c'est mal d'être ci ou d'être ça. Voilà, lui, il est trop arrogant, etc. Et en fait, c'est des choses, bah, qu'on s'autorise pas à être parce qu'on pense que c'est mal. Mais ça veut pas dire que tu es arrogant. Ça ne fait pas de toi quelqu'un d'arrogant. C'est que t'as des phases où, bah, justement, tu vois, même Mbappé, il le dit, bah, il y a des moments, ouais, on peut penser que je suis arrogant, mais c'est que t'as besoin de te mettre en confiance. Tu vois, t'as besoin de te dire, ok, je suis capable d'assurer. Et en fait, voilà, ça veut pas dire que tu es quelqu'un d'arrogant. Ce n'est pas ta nature. On peut être tout. Et à partir du moment où tu comprends que tu peux. Ouais, exactement. Et c'est à partir du moment où il m'a parlé que, bah, l'identité, c'est le plus important. Et là, il m'a présenté la pyramide de Diels. Je pense qu'elle te parle. Et là, j'ai compris que mon rapport au monde, n'était plus le même. Parce que tu prends conscience de ça, tu dis, waouh! Je me prends une claque. Tu prends une claque parce que quand tu prends le truc à l'envers, bah ouais, tu vas forcément changer ton attitude en fonction de ce que vont penser les autres parce que tu n'as pas confiance en toi. Et moi, même, on va dire entre guillemets, à l'époque, c'était surtout par rapport à mon père, qui, voilà, enfin, j'avais deux super parents, c'est pas le problème, mais il y avait deux approches différentes. Du côté de mon père, j'avais plus d'autonomie, plus de responsabilisation. Il m'était plus face à ça. Il m'accompagnait, mais voilà. Et puis d'un côté, j'avais ma maman, bah voilà, qui m'aimait beaucoup, qui m'accompagnait partout, qui m'a permis d'aller sur toutes les compétitions, etc. Enfin, t'avais deux choses. Et d'un autre côté, moi, par rapport à mon père, j'ai toujours eu du mal à m'affirmer dans le sens où c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent et qui, bah, t'as l'impression que t'as toujours besoin de son aval ou qu'il valide ton idée pour savoir si elle est bonne, etc. T'avais toujours, voilà, un doute sur toi parce que tu savais que ton père, entre guillemets, avait la réponse absolue à tout. Donc, tu te fies à ça, en fait, tu vois. Ouais. Et indirectement, t'as l'impression que tu te sens dépendant de son regard, tu vois. Donc, t'as l'impression que ce que tu fais va être jugé par lui ou et en fait, ça se reflète par rapport à tout le reste, tu vois. À partir du moment où t'as ça.
C'est le syndrome de l'imposteur aussi, à fond. Hein.
Exactement.
Pareil, j'avais un papa très présent, très connaissant, très sachant. Et du coup, bah, dès que t'exposes quelque chose, tu vois, que t'es content de raconter, t'as toujours un peu la peur que la personne, elle sache un peu mieux que toi, ou que, tu vois.
Qu'elle dise que c'est une mauvaise idée. Tu vois, j'ai fait mes premières expériences, dans un domaine, alors qui, moi, me passionnait à l'époque, c'était le marketing relationnel, quand j'étais à la fac, tu vois. Bon, c'était très mal perçu, mais moi, il y avait un truc qui me passionnait dedans, tu vois, vraiment, littéralement. Et, ben, mon père, voilà, il avait son regard là-dessus, il me dit non, voilà, ça rend les gens fous, etc. Et moi, je dis non, je veux faire ma propre expérience. Et c'est à partir de ce moment-là où je me dis, je veux faire mes choix moi-même. Je me dis, ok, je fais mon choix, je vais peut-être faire de la merde, mais il faut que je le fasse pour que je puisse me faire mon opinion. Et c'est là que les choses ont changé, mais ce rapport-là, j'en avais pas conscience encore. Et c'est là où le travail de Pierre David m'a permis de prendre conscience de ça, de se dire, voilà, ben, cette décision que t'as prise, c'est parce que t'avais besoin d'affirmer ton identité. T'avais besoin de te recentrer sur ton identité, tes croyances, tes valeurs, pour aller vers ton environnement. Parce que tu es là pour apporter quelque chose aux autres et pas dépendre des autres pour savoir qui tu es. C'est pas les autres qui vont te dire tu es ci, tu es ça, etc. Et qu'aujourd'hui, on a toujours tendance, avec les réseaux sociaux, comme je t'ai dit, en fait, tout ce qui est facteur externe, on a tendance à le prendre pour soi et changer notre comportement, notre identité en fonction de ce facteur-là pour y correspondre et s'y conformer. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui va à contre-courant, qui justement a envie d'être authentique, d'apporter les choses qui lui sont propres, d'avoir ma propre identité, enfin, tout ce qui permet d'être unique. Et même, je pense que c'est pas quelque chose que je dis, mais le choix de mon sport, en dit long. Parce que quand j'étais petit, j'ai fait énormément de sport. Alors, j'adorais le sport, parce que j'avais besoin de bouger, de sortir, de faire des activités physiques. Je faisais peut-être 3-4 sports dans la semaine différents, quand j'étais en primaire. J'allais faire, je sais pas, du foot, du tir, de la danse, du rugby, du tennis. Plein de trucs, j'en ai fait plein. Et même les activités périscolaires, hein, quand t'allais entre midi et deux faire les activités sportives, voilà, je prenais tout. J'avais envie de découvrir le sport, j'ai envie de toucher à tout. Voilà, et il y a un truc qui est resté, c'est le vélo, le BMX. Parce que c'était quelque chose qui était différent, peu commun, et visuellement, bah, ça donnait l'impression d'être quelqu'un de différent, tu vois, de te démarquer. Mmh. J'avais pas envie d'être un footeux, d'être un petit qui fait du foot, parce que c'est très, pas stigmatisant, mais c'est très classique, tu vois, un gamin qui va aller faire du foot. Tu vois, et moi, bah, le BMX, bah, ça me donnait l'impression d'être quelqu'un de différent, parce que voilà, t'as une tenue avec un casque intégral, t'as des gants, t'as un vélo, t'as des bosses, t'as un truc qui a de la gueule, tu vois. Mmh. Et ça te donnait vraiment cette sensation d'être quelqu'un de différent. Et je pense que au fond de moi, j'avais tellement peu confiance en moi, comme toujours, que je me suis dit, voilà, ce sport me fait ressentir quelqu'un que je suis. Au fond, je peux m'exprimer dans sport pleinement parce que il me correspond sur les valeurs, sur l'état d'esprit, sur les sensations que j'y ressens. Enfin, voilà, c'est le côté extrême, c'est le sentiment d'être différent et de pouvoir s'épanouir pleinement dans cette discipline. Voilà, parce que ça te correspond. C'est pas un sport que tu vas faire par défaut. Et du coup, c'est complètement l'extension de moi, en fait, ce sport. Et c'est pour ça que, en fait, quand t'es avec ton vélo, tu fais qu'un, tu peux pas te dire, je vais faire ce sport pour gagner. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas faire ce sport pour gagner. Un sport tu prends des risques et tu mets ta vie en jeu, c'est pas le même sport que tu dois juste faire une performance et battre un timing ou soulever plus de poids. Dans ces phases-là, ça se joue au mental, mais là, on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe où il faut s'accrocher. Parce que c'est pas juste une question de volonté, c'est pas juste une question de capacité physique. C'est beaucoup plus. Du coup, très jeune, j'avais cette approche-là de me dire, voilà, j'ai besoin de me sentir différent. Et quand j'allais, voilà, à l'école, ton BMX et tout. Enfin, voilà, t'avais le sentiment d'être regardé pour quelque chose qui était différent. Tu vois, et moi, je voulais pas rentrer dans le moule, je voulais pas me sentir comme les autres. Alors que, d'un autre côté, quand t'es petit, t'as envie de te sentir comme les autres et tu comprenais pas pourquoi t'avais l'impression de pas être comme les autres. Tu vois, ils avaient tous des passions, des choses qui étaient différentes. Ils faisaient tous, voilà, du foot, etc. Et quand tu joues au foot, bon, tu t'amusais pas comme eux, t'étais pas dans leur groupe. J'avais toujours l'impression d'être le type chelou, tu vois, même que ce soit au collège, lycée, j'ai l'impression d'être dans mon coin. Alors pas parce que je le voulais, mais parce que les centres d'intérêt, les capacités intellectuelles, les centres d'intérêt sur les discussions étaient complètement différentes et que ça m'intéressait pas. Moi, j'avais besoin d'évoluer dans quelque chose qui m'animait, qui me challengeait, qui, voilà, quelque chose de constructif. Et que, bah, que ce soit jeune ou plus vieux, bah, j'ai toujours eu tendance à me rapprocher des choses qui m'apportaient humainement quelque chose. Tu vois. Et pas juste le sentiment d'appartenir à un groupe, d'être comme eux. Enfin, ouais, t'as besoin de voler de tes propres ailes, quoi. Très jeune. Très, très jeune.
Je comprends ce qui te motivait plus jeune, tu vois. Mais tu vois, là, après 1h10 de conversation, j'ai peut-être toujours pas compris qu'est-ce qui te motive aujourd'hui. C'est quoi ta source de motivation, justement, à continuer, ou, donc t'as changé de discipline, t'as un job à côté, enfin, c'est ta boîte de photographie qui lie un peu tes deux passions, tu vois, entre la création de contenu et ouais, le sport. Qu'est-ce qui te donne l'envie de continuer, d'aller encore plus loin, de tenter des tricks nouveaux? Elle est où la source de motivation, en fait? Faudrait définir, tu vois, quelle serait la réussite pour toi, quel est l'objectif pour toi avant, mais
alors, de manière générale, je pense que c'est l'accomplissement personnel. Je pense au plus profond de mon être, c'est le sentiment d'être complet, tu vois, heureux, passionné, tu te sens comblé. Pas parce que tu as accumulé les titres, mais parce que tu as le sentiment de devenir quelqu'un. Enfin, devenir quelqu'un, pas au sens propre, pas une célébrité, etc., mais de pas avoir gâché ton temps, mais pas avoir de regrets. Tu vois, j'ai envie d'avoir une vie pleine et de me dire que voilà, bah aujourd'hui j'ai 25 ans, mais j'ai vécu tellement de choses, et que je veux que chaque année soit unique et remplie de choses où j'ai laissé une trace quelque part, que ce soit de manière sportive, intellectuelle, photographique, enfin tout passe par l'émotion. le ressenti, l'expression de soi, j'ai besoin de m'exprimer. Je pense que c'est ça qui me motive, parce que j'ai besoin d'exprimer quelque chose, de faire passer un message, et pas seulement d'être vu, d'être regardé. C'est pas tant ça qui m'intéresse, et c'est exactement ce que je disais à Pierre David, et c'est les raisons qui m'ont poussé à faire mon bike front flip au FIS. Et c'est ce qui m'a fait prendre conscience que je ne faisais pas les choses pour avoir, je faisais les choses pour être. Et c'est ça, c'est une source de motivation qui est infinie. Parce que je pense qu'il y a une différence entre ce qui t'est propre et le désir. Et je pense aujourd'hui que beaucoup de jeunes, plus vieux, ne font pas la distinction entre des ambitions et le désir. L'ambition, pour moi, c'est quelque chose qui va être perpétuel, immuable, qui est quelque chose qui va pas bouger, que peu importe ce qui se passe, il y aura pas d'après, puisque c'est sans fin. Tu vois, c'est une mission, c'est presque comme un slogan, tu vois, c'est ta raison d'être. Ouais. Et en fait, je me bats tous les jours pour ma raison d'être, et je vais accomplir des choses, mais pour ma mission principale, qui est d'être, et devenir quelqu'un qui va apporter de la valeur aux autres, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et d'un côté, il y a le désir, où c'est quelque chose qui est remplaçable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a une fin, et si tu te bats pour des désirs, tu vas être complètement bouleversé justement par tous les facteurs externes, parce que c'est là où tu vas te remettre en question. Si tu dis, voilà, je désire être champion du monde, si tu n'es pas champion du monde, c'est-à-dire que tu n'es rien. Ouais. Entre guillemets. C'est-à-dire que tu te mets cette barrière de dire, si je n'ai pas ça, ça veut dire que je suis mauvais. Les gens pourraient dire ça. C'est-à-dire que, ouais, si je fais pas de bons résultats, c'est-à-dire que je suis pas bon dans mon sport. Mais moi, je suis dans un sport où, même si on fait pas de résultats, on peut être très bon. Et c'est ça, la différence, de se dire que, humainement, professionnellement parlant, sportivement parlant, tu as énormément de qualités qu'il faut savoir exploiter, mettre au service de l'intérêt général, les valoriser. Et en fait, c'est tout ce travail-là et qui permet de sublimer la performance. Et que pour moi, la performance n'est pas une fin en soi, parce que si ça devient une fin en soi, tu vas t'arrêter qu'à ça. Et le jour où tu n'as plus, tu n'es plus. Et moi, je veux pas ça. Parce que tu as toujours le syndrome des sportifs qui s'identifient toujours à leurs résultats, s'identifient toujours à leur carrière. Et quand ils arrêtent leur carrière, ils sont complètement du père. Ils vrillent, ils ont le sentiment de plus avoir d'identité, que ils ressassent sans cesse une nostalgie de « Ah, mais j'étais ci, j'étais ça », et quelque chose qui n'est plus. Et moi, en fait, j'essaie d'anticiper ça et d'avoir quelque chose de plus grand, plus ambitieux, et qui me permet d'avoir des conditions nécessaires pour performer, mais sublimer aussi cette performance et raconter quelque chose de concret. Tu vois, quelque chose qui ne s'arrête pas à la performance. C'est pas quelque chose qui se remplace, parce que quand tu gagnes quelque chose, bah, tout de suite, faut passer à autre chose. Et si tu t'arrêtes qu'à simplement gagner, 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 en fait, c'est juste un effet de combler un manque. Et si tu gagnes pas, voilà, ça s'arrête. Et moi, je veux pas ça. Je veux quelque chose qui soit en continu. Et peu importe ce que je fais, il y a des à côté, et c'est un écosystème. Voilà. C'est un écosystème qui me permet de devenir, plutôt que d'avoir.
Ouais, et tu t'arrêtes plus du tout, justement, au statut, parce que le statut, ça c'est un avoir, tu vois, et j'en parlais par exemple récemment avec Pierre aussi, tu vois, et je lui disais l'exemple, tu vois, justement, je suis un joueur de basket, tu vois, tu peux être un joueur de basket, mais en fait ce que tu te dis là-dedans, c'est ton statut, tu vois, et ce statut, tu le perds le jour où t'es plus pro. Mais en vrai, tu resteras toujours un joueur de basket. Tu peux toujours jouer au basket, tu vois. Sauf si tu perds tes deux jambes et tes deux bras. Et encore, tu pourras encore jouer. Tu seras toujours un joueur, tu vois. Et ouais, c'est passionnant ce switch psychologique, justement, que ça fait avoir. Je me pose la question, tu vois, de justement, après cet accompagnement, après tout ce boulot-là, là aujourd'hui,
ça va aider, reste.
Qu'est-ce que tu fais? je le vois, je le constate. Quelles sont tes routines, justement, pour l'entretenir? Tes petites astuces, tu vois, ou tes petits conseils justement pour rester bien, tu vois, moi je pourrais te dire les miennes, tu vois, je médite tous les jours, ça me permet un peu d'arrêter le flot de pensée, j'ai un petit carnet de fierté aussi pour me rappeler que tous les jours je fais beaucoup de petits trucs qui me rendent fier, pour ne jamais les oublier, tu vois. Ça peut être des trucs tout bêtes, hein, c'est de donner 1 euro à un SDF tiens, je suis fier de bosser un 31, tu vois, et d'avoir une super conversation. Toi, c'est quoi tes routines, ton quotidien justement pour entretenir tout ce que t'as pu, tout ce travail que t'as pu faire sur toi?
Alors, j'ai pas vraiment de routine. Je pense que la seule chose qui me permet de garder ce cap, c'est transmettre. Vraiment. C'est plus facile pour moi de faire les choses pour les autres que pour moi-même. Et en fait, c'est quelque chose qui va être quotidien dans ma relation aux autres, parce que ça a impacté ma vie, mais de manière considérable. Et je me dis, Sois pas égoïste, tu vois. Et dans le sens où tu dis, c'est pas une révélation, c'est pas une illumination, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de dire waouh, bah ouais, je voyais les choses comme ça, la dualité entre le positif et le négatif. C'est une gymnastique. Ce que m'a appris Pierre David, c'est une gymnastique. Il m'a pas appris à être dépendant de lui. C'est pas un gourou. Il m'a donné des outils. Il m'a donné une boîte à outils. Et continuellement parlant, en fait, ça devient plus un réflexe. J'en parlerai après, mais concrètement, ce qui me permet de garder, on va dire, tout ça, c'est la volonté de le transmettre et de le partager à chaque instant à travers mon parcours sportif. C'est-à-dire que dès que j'ai l'occasion de montrer que, voilà, ce que m'a appris Pierre David m'a permis de faire face à telle situation, telle situation, telle situation, que ça m'a appris ça, etc. Enfin, tout réside dans le fait de transmettre quelque chose. Tu vois, c'est, je le donne parce que c'est de la valeur ajoutée, c'est gratuit et tu laisses quelque chose aux autres. Tu vois, et moi c'est ce que je veux que ma carrière entre guillemets reflète, c'est cet état d'esprit. C'est plus un état d'esprit que un palmarès. Et concrètement, bah, que ce soit, enfin, je prends plus de plaisir à le faire sur LinkedIn parce que pour moi, c'est d'un point de vue professionnel, c'est valorisant de montrer qu'il y a autant de hauts que de bas et comment tu arrives à avoir un certain état d'esprit pour affronter telle ou telle difficulté. C'est tout l'apprentissage que j'ai eu avec Pierre David. Voilà, moi je reste fidèle à moi-même et le transmettre, c'est ma manière de le conserver. Parce que voilà, tu arrives à démontrer les cas pratiques dans lesquels la préparation mentale a son utilité. Qu'est-ce que t'apporte le sport, etc. C'est du storytelling en fait. Concrètement, c'est du storytelling. Et puis après, de manière générale, bah, c'est relire un petit peu le bouquin de Pierre David parce qu'il avait sorti un bouquin. Et ouais, c'est des petits shoots de rappel. Et tu te dis, waouh, ouais. Parce qu'il y a des fois, t'es tellement dans le jus, t'es tellement dans le guidon, dans la tête dans le guidon, que tu fais pas attention. Et moi, ce que j'ai appris avec Pierre David, c'est vraiment cette prise de recul. Où t'es là, tu prends un recul sur toi, tu dis, ouais, t'analyses la situation en fonction des outils qu'il t'a donné. Tu comprends la relation aux autres, à toi. Tu te rappelles ben, voilà, qui tu es, qui t'as envie de devenir. Concrètement, ça aussi, c'est mon shoot de rappel parce que son slogan ou sa citation, c'est universel. C'est universel. Et pour moi, me le rappeler chaque jour, bah ça me rappelle chaque jour pourquoi je me bats, pourquoi je fais ça. Et que c'est quelque chose qui ne s'arrête pas à une valeur matérielle, temporelle, ou voilà, ça c'est infini. C'est infini. Donc, se dire que chaque jour, tu grappilles des millimètres pour telle ou telle cause, pour toi, pour ta carrière, bah, en fait, c'est un jeu. C'est voir la vie comme un jeu où tu accumules de l'expérience, des compétences, des connaissances, une expertise. C'est un capital social que tu vas apporter aux autres. Enfin, ah, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et c'est pas juste des simples connaissances. C'est pas voilà, c'est marqué. Alors c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a pas de règles. Faut se l'approprier en fait, je pense. Faut se l'approprier. Donc moi, quand j'ai des stagiaires ou des fois quand j'interviens à la fac, ben je fais toujours des petites analogies, il y a toujours des notions à ce que j'ai appris avec Pierre David et aujourd'hui, même 3-4 ans après, bah de quelle manière ça continue d'impacter ma vie. Parce que ça, c'est concret pour les gens. Quand tu vas dire quelque chose qui va être abstrait, c'est-à-dire que voilà, tu peux dire ouais, la relation entre le positif et le négatif, c'est comme les gens qui vont dire ouais, faut positiver dans la vie, blablabla, blablabla. Ça, c'est des choses qui sont générales, qu'on nous a toujours répétées, mais tant que tu comprends pas, tant que tu peux pas voir dans quelle situation ça peut s'appliquer, t'as du mal à te sentir concerné. Et moi, ce que je veux, c'est qu'à travers mon parcours sportif, les gens se sentent concernés parce que je vis, parce que je traverse, parce que c'est des choses qui sont indirectement transmissibles aux autres. C'est-à-dire que des situations peuvent être générales. Je te parle par exemple de mon cambriolage. Quand je me suis fait cambrioler en 2020, c'était un mois avant la fin de mon contrat de travail. J'avais mes 3 années de travail, c'est-à-dire bah, voilà, tout l'investissement mental que j'avais en photo, en VTT. D'ailleurs, quand j'ai fait le bike front flip, c'était avec le VTT que j'avais avant. Donc pareil, il y avait encore une histoire avec ça. Bref, tout ça qui part comme ça, et l'instant même où j'ai réalisé que je me suis fait cambrioler, j'ai accepté cette situation. Parce que je me dis, ça sert à rien que je mentalise, c'est fait, c'est fait. Peut-être qu'il y aura une situation où, bah, dans le meilleur des cas, je retrouve mon matériel, et de l'autre, faut que je me projette. Et ça, énorme gap. Énorme gap, parce que, comment dire? La situation était tellement complexe et dure à traverser parce que j'ai vécu des choses qui n'étaient pas roses dans l'association dans laquelle je travaillais, qui m'ont énormément blessé, impacté physiquement, moralement. Tu te sens dégoûté de l'intérieur de t'investir, d'avoir donné autant de ta personne, tu te sens violé en fait. Enfin, excuse-moi pour le terme, mais littéralement, l'abus de confiance. Voilà, c'est ça, plutôt ça. C'est peut-être plutôt approprié, mais c'est concrètement de l'abus de confiance et que tu dis, j'en peux plus, j'en peux plus. Et le comble, c'est que tu te fais cambrioler. Donc là, c'est encore la goutte au-dessus. Tu dis, waouh, t'apprends, tu réalises tout ce qui s'est passé et pourquoi ça a été fait, etc. Et en plus de ça, ouais, t'as plus rien. T'as plus rien. Voilà. Et je me suis dit, non, j'ai pas plus rien. J'ai plus de matériel. J'ai plus de matériel pour travailler, pour lancer mon activité, etc. J'ai peut-être plus ça, mais j'ai encore la capacité de créer de la valeur. Tu vois? Mes compétences, je les ai. Mes connaissances, ma vision, ma mission, mes valeurs, mon plan de vie. On peut pas me le voler. Et c'est ce que je me suis construit, parce que je me suis pas construit quelque chose en fonction des facteurs externes. Je me suis construit en fonction de moi, de mon identité. Et c'est ça que j'ai gardé. Parce que ça, on peut pas me le voler. Et du coup, bah, voilà, je me suis tenu au plan, ma vision, ok, bah, je vais avancer comme ça, etc. Je me suis reprojeté. Et voilà, je me suis pas anéanti parce que je n'avais plus. Il y en a qui pourraient être anéantis parce que voilà, ça fait beaucoup trop à gérer. Et moi, le sport de haut niveau m'a permis de gérer cette situation, et de m'en servir comme force. Parce que ça te donne de l'élan. Tu vas peut-être au fond, mais ça te donne un appui pour remonter à la surface et tout casser. Et concrètement, c'est ce qui s'est passé parce que ça m'a donné, voilà, on va dire la force de croire en mes convictions, d'être au pied du mur entre guillemets. Tu dis ouais, bah est-ce que tu retournes dans ta vie de salarié ou est-ce que tu fais marche arrière ou non, tu crois dur comme fer à ce que tu vas faire. Je savais pas où j'allais. Hein. La vie d'indépendant, c'est pas simple. Tu sais pas comment tu vas gagner ta vie, comment tu vas financer ta saison, les si et les mi, etc. Enfin. Et c'est, aujourd'hui encore, hein, c'est toujours le cas. Je me pose toujours plein de questions. Mais d'un autre côté, je me fais suffisamment confiance à l'intérieur de moi. J'ai toujours cette petite voix qui me dit, voilà, on va avancer, ça va se décanter. Ouais, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais tu sais que les choses vont se dérouler plus ou moins de cette manière. Comme si, voilà, tu te fais confiance de manière aveugle, quoi. Et en fait, plus t'es concentré sur un truc, moins tu l'as. Donc moi, je préfère pas être concentré sur le truc. C'est-à-dire que le cambriolage, c'est, voilà, le processus. Non, c'est ouais. C'est la différence entre le désir qui s'arrête à cet endroit-là et le processus qui n'a pas de fin. Ouais. Voilà. C'est cette vision-là qui a changé ma vie. Et sans Pierre David, j'aurais peut-être pas eu tous ces outils-là pour le comprendre.
Ouais, je vois. Et tu te vois comment dans 10 ans? Si tu te permets de rêver, je sais que c'est un peu contradictoire avec parfois ce que dit Pierre, tu vois.
Ouais, ouais.
De pas toujours. Pas toujours effectivement se concentrer sur un résultat ou un objectif, mais
ouais.
Dit très bien se concentrer sur.
Il faut matérialiser un peu ses idées.
Du jour par le jour. Ouais. Mais ça reste toujours bien, tu vois, de se permettre un peu de rêver et d'avoir des sources d'inspiration aussi qui permettent justement de créer ce processus-là. Toi, tu te verrais comment du coup?
Alors déjà, mon projet de photo, si je pars de là, bah, dans 10 ans, moi l'objectif c'est qu'en commençant maintenant, ça me permette d'avoir pendant les 10 prochaines années de l'expérience, de la clientèle, du réseau, tout ce qui me permettra de switcher, si admettons ma carrière sportive s'arrête dans 10 ans, sur quelque chose qui a déjà commencé. Tu vois, je pars pas de ma carrière s'arrête là, allez c'est bon je passe à autre chose. Non, je peux pas, je suis obligé d'anticiper. Et en fait c'est un travail de fond. Et du coup voilà, bon, dans 10 ans professionnellement parlant, je m'attends à ce que je suis suffisamment bien installé et réputé dans la photo pour travailler régulièrement et choisir avec qui et quand travailler. Voilà. Et après, sportivement parlant, j'ai 35, je pense que je continuerai peut-être des démos. Je pense à 35 ans, tu peux toujours faire du VTT sans problème. Après, en slopestyle, je sais pas, mais peut-être qu'il y a d'autres disciplines dans lesquelles je m'ouvrirai des portes. Ça peut être du DH ou d'autres trucs, hein, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je continuerai le sport jusqu'à ce que mon corps me le permette et mes conditions... Voilà, mes conditions environnementales aussi, parce que y a plein de facteurs externes qui te favorisent aussi la possibilité de t'entraîner, de te donner à fond. Bien sûr. Donc voilà, puis je sais pas, je me dis peut-être être intervenant à la fac aussi, parce que voilà, quand je te dis, ça me plaît, quand j'ai des stagiaires, ça me plaît de transmettre ce que je sais, de leur montrer des choses concrètes, plutôt que transmettre des généralités. Tu vois, c'est vraiment ce que ça m'a apporté déjà, le dust. J'ai envie de continuer à le transmettre, en fait. C'est là, je suis toujours investi dans la fac. Je prends régulièrement des nouvelles de ce qui se passe, les intervenants, ils font des événements, etc. J'accueille des stagiaires qui viennent de cette fac, enfin du Dust. Et juste ce sentiment d'accomplir des choses bien pour l'intérêt général et qui te servent pas que toi. Enfin voilà, c'est vraiment le sentiment d'être complet. Donc en 10 ans, j'espère que j'aurai une carrière qui est bien remplie en émotions, en souvenirs, en réussite, en échec, en performance. Je sais pas concrètement comment ça va se passer, mais voilà, j'espère avoir marqué un maximum de personnes dans ma vie et tous ceux qui auront croisé ma route.
Ok, bon, bah, trop cool. J'arrive aux deux questions de la fin. La première, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un film ou un livre que tu recommanderais à la terre entière de regarder parce que toi, ça t'a mis une grosse claque et que ça t'a permis de voir un peu différemment.
Bah, si je parlerais de livres, je parlerais plus de l'accompagnement de Pierre David, parce qu'en soi, ça résume quand même pas mal de choses. Donc là, il a sorti un petit livre qui résume un peu pas mal de choses.
Ouais. Il en sort un deuxième.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus complet. Et du coup, après, en termes de film, j'allais dire peut-être Poursuite Happiness, je crois, La Poursuite du Bonheur, avec Will Smith, il me semble. C'est un film qui est assez intéressant, qui, en plus, je l'avais regardé, je crois, quand j'étais au lycée à l'époque, et relativement complet, et voilà, après, je pense pas à d'autres films, même si je pense plein de films qui m'ont marqué.
Dis quelques noms, peut-être que même si c'est des films plus de sport, moi je suis preneur des recommandations.
Non, pas tellement. Je me souviens même plus des films. J'ai plus les noms en tête. Mais en tout cas, Pursuit of Happiness, sûr.
Vas-y.
J'ai pas d'autres là. J'ai la tête un peu embrouillée.
Vas-y, pas de souci. Et la toute dernière question que je pose, c'est un passage de micro et c'est de connaître la prochaine femme et le prochain homme que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler justement prépa mental, histoire de vie, galère de sportif, réussite, échec, double projet aussi. Qu'est-ce que tu me recommandes d'aller voir?
Alors en femme, je sais pas, je pense que tu l'as peut-être déjà eu. Cécile Hernandez.
Ah, écoute, j'adorerais. Ah. Trop, trop chouette et hyper inspirante.
Voilà.
Donc,
concrètement, moi, ce serait, voilà, Cécile.
Ouais,
après, Mathilde Bernard, je pense que tu l'as déjà eu.
Pas encore. Okay. Mais, c'est dans ma to-do list. À la fois pour Cécile et...
Après, chez les hommes. Après, j'allais dire dans ma discipline, j'allais dire Thomas Lemoine,
ouais.
Qui a eu, je pense, quelque chose de semblable à mon parcours, du point de vue sportif. On a tous les deux commencé par la race. Mmh. Bon, lui, il s'est arrêté plus tôt, mais du coup, aujourd'hui, il est dans le top niveau VTT slopestyle, pareil.
Ouais.
Ça serait vraiment intéressant, je pense, peut-être d'en savoir un peu plus sur son parcours, etc. Et après, sinon, je perds de personne d'autre qui vient en tête. J'allais dire Joris Daudet, mais Joris,
j'aimerais bien quand même. Il a marqué l'histoire du sport quand même.
C'est ça. Ah, sacré Joris. Ouais, voilà. Il nous a fait vibrer.
Un message de ta part, mais ouais, effectivement, Joris, ça me ferait vachement plaisir. Écoute, trop cool, Pierre. Je vais pas t'embêter plus longtemps pour un.
Tu m'embêtes pas, mais je pense qu'il faut que ce soit assez concis.
C'était vraiment super cool de pouvoir creuser, ton parcours et te voir aussi maintenant, parce que t'es en plein mouvement, t'es en perpétuelle transition.
Ouais.
Là où justement, tu vois, certains autres sports, il y a beaucoup plus de routine et certains athlètes sont un peu dans des funnels, tu vois, pas trop de questions à se poser, tu vois, en tant qu'athlète. Et
là c'est différent. Enfin, moi, ma bataille actuellement, c'est d'avoir une réussite qui est professionnelle, c'est-à-dire vivre du sport. Et en fait, tout ce que je construis à côté, c'est pour compenser ce manque de moyens que j'ai dans le sport, en fait. Mmh. Et montrer que, ouais, je suis peut-être pas le meilleur, je suis peut-être pas champion du monde, mais j'ai les ressources. Et ce que je veux montrer, c'est que, avec ces ressources-là, on peut construire d'autres choses. Mais j'essaie justement de créer un écosystème qui soit favorable à la performance et, justement, qui me désinhibe complètement du résultat. Tu vois, parce que je te dis, demain, je suis en équipe de France, ou sous contrat pro, avec une marque qui a 10 000 exigences, mais tu dépendrais que de ça et que t'aurais rien à côté. t'aurais une pression monumentale. Tu pourrais pas réussir dans ces périodes, dans ces conditions-là, parce que t'as une pression de perdre ton contrat, parce que c'est grâce à ça que tu perds ton, enfin, tu payes ton loyer, tu vois, toutes ces choses-là. En fait, complètement se détacher de toutes ces contraintes, et justement faire en sorte que les choses partent de toi, ce soit des choses qui ne bougent pas, et que tu te crées tout plein d'opportunités. Donc là, j'espère peut-être à l'avenir que j'aurai des opportunités qui me permettront de vivre du sport et éventuellement de la photo. Et ouais, c'est un peu tout le débat de ma philosophie derrière. Voilà. Que c'est pas parce qu'on n'est pas champion du monde qu'on est nul, et qu'on n'a pas le potentiel pour faire de grandes choses.
Bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et écoute, je suis sur une grosse table en bois, donc je touche du bois pour toi.
Merci.
Et c'est vraiment tout le mal que je te souhaite. Et j'ai envie vraiment de suivre ton aventure et de voir comment tu vas évoluer, parce que c'est encore plus inspirant, je trouve, tu vois, les parcours un peu moins linéaires et qui peuvent avoir. Donc écoute, merci infiniment Pierre, je me suis régalé pendant cette heure et demie.
Pas de problème.
J'espère que toi aussi.
Pareil. Oui, bien sûr.
Comme on dit par chez moi, à bientôt, parce que il y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Salut Pierre.
Salut Bart.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.